السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Normalement, inshallah ta'ala, aujourd'hui, on n'a pas fiqh. Mais puisque hier, j'ai pas fait le dars, donc je me vois obligé de rattraper le dars qu'on n'a pas fait hier. Avant de commencer le nouveau dars qui parle de la veine saignante, c'est-à-dire l'istihada, j'aurais aimé d'abord poser quelques questions. Et avant de poser les questions, je voudrais d'abord savoir s'il y a le son ou s'il n'y a pas. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. C'est pour ça que j'ai enlevé quelques points rouges pour qu'on me réponde est-ce qu'il y a le son ou là il n'y a pas. Naam, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Je voudrais poser quelques questions, inshallah ta'ala. Comme ça, on continue, inshallah ta'ala, le nouveau dars. Le sang des menstrues a quatre signes qui sont différents des, yani du sang normal, du sang qu'on appelle dam fasad. Par exemple, comme le sang de la métrorragie ou l'istihada, on parle du sang des monstres. Il a quatre signes, yani, propres à lui. Yani, qui peut me citer les signes, les quatre signes qu'il a. Même si quelqu'un, par exemple, dit un signe, l'autre il dit deuxième, troisième, et comme ça. Inch'Allah, celui qui peut, il lève la main. Celui qui connaît les quatre signes avec lesquels on reconnaît que c'est. Que ce son, c'est un son de monstre. Yani hada, ce n'est pas spécialement pour les femmes. Même les hommes doivent savoir cela. Premièrement, parce qu'ils vont avoir des femmes. Deuxièmement, parce que on leur demandera. Hein, quelqu'un qui a du haine doit savoir aussi. Yani, même si ça a rapport avec les femmes, parce que ça, c'est aussi le din. Donc toi, il se peut que dans la mosquée, quelqu'un te demande pour sa femme. Il faut que tu saches la réponse. Je répète ma question. Le sang des menstrues, il a quatre signes. Quels sont les quatre signes avec lesquels on le reconnaît? Saddal. Bint Hashmi. Donne-nous quelques signes, inshallah ta'ala. Ça fait deux signes. La couleur marron, l'odeur. Non, je rectifie, la couleur noire et l'odeur, deux signes, la couleur noire et l'odeur, ou bien disons marron foncé et l'odeur, ça fait deux signes, il reste sur la deux signes, Oum Safiya. Alaykoum salam, quels sont les deux autres signes, Inch'Allah? Il y a deux autres signes. Bon, maintenant j'enlève les mains et comme ça je sais, pour que je sache celui qui a levé la main. Non, il y a deux autres signes. Le premier signe, il est noir. Le deuxième signe, il a une odeur. Il y a deux autres signes. Quels sont-ils? Pour ceux et celles qui étaient au fait. Il est le 406. Dans notre troisième signe, Inch'Allah. Hilal, donne-nous le troisième signe, inshallah ta'ala. Ne coagule pas. Barakallahu fik, hada. Si en fin de compte, hada, c'est le quatrième signe, alaykum salam. Ma'alish. Mais hada, le signe le plus difficile. Hada, que beaucoup de gens ne peuvent pas le trouver. C'est le quatrième signe. Le sang des menstrues ne coagule pas. Le sang adi, il se coagule quand on le lève. Quel est le troisième signe maintenant? Ou là, le quatrième? Le but de la vie, tfadbal. Le but de la vie, tfadbal. Quel est le troisième signe? Paf, il est gras. Yani, il n'est pas mince. Il n'est pas mince. Non. En arabe, yani, sakhin, sakhin. Il est assez gras. Tandis que l'autre, il est mince. Et je vais poser d'autres questions. Maintenant, je résume. En ce qui concerne le sang des menstrues, il a quatre signes. Il est noir. Il a une odeur. Il est gras. Il ne se coagule pas. Le sang normal est rouge au lieu de noir. Il n'a pas d'odeur. Il est fin. Il se coagule. Si vous le laissez un quart d'heure ou là, vous trouvez comme une boule. Pourquoi? Il s'est coagulé. Autre question maintenant. Quand la femme se purifie, la femme se purifie, ça veut dire elle n'a plus de sang. Elle n'a plus de sang. Est-ce que, à partir du moment où il y a le liquide blanc, pour celles qui ont le liquide blanc, les pertes, pour celles qui en ont, est-ce que, à partir de ce moment, il est permis à son mari de la cohabiter, ou bien il faut qu'elle se lave pour qu'il lui soit permis de la cohabiter? Voilà une question, inchallah. Une femme, je répète, une femme qui vient de se purifier en voyant les pertes blanches. Naam. Abou Abdelrahim, Fadal, est-ce que le fait qu'elle voit les pertes blanches, ça veut dire qu'elle est pure, son mari peut déjà l'approcher, ou bien elle doit faire le rousl d'abord? Il faut qu'elle fasse le rousl. Barakallahu fik. Naam. Il faut qu'elle fasse le rousl. Si elle ne fait pas le rousl, yani c'est quoi? C'est interdit. Si elle ne fait pas le rousl, c'est interdit, ça veut dire ils ont fait un haram. Ça veut dire ils ont fait le haram. Autre question. Quel est le châtiment de quelqu'un qui cohabite sa femme lorsqu'elle a les menstrues? Quel est le châtiment de quelqu'un qui cohabite sa femme lorsque elle est en plein menstrues? Je veux dire d'abord la première question. Je parle du châtiment, yani d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite viendra la question, une autre question, que doit-il faire? Que doit-il faire ici dans la vie? Maintenant, je parle du châtiment qui l'attend, yani, s'il ne fait pas le repentir. Quel est son châtiment de quelqu'un qui cohabite sa femme en plein menstrue, ou bien, yani, par amal, ou bien, coït amal? Yani, quel est son châtiment d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Kofr, Abou Yes a dit Kofr. Abou Yes 68. Fadal, il y a autre chose? Abou Yes 68. Fadal. Naam. Matroud bin Rahmatillah. Naam. Parce que Mel'oun. Et dans le hadith, il a dit Faqad kafara. Kafara bima nazala ou unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le kufr ici, ce n'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam. Ce n'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam. Mais puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé kufr, ça veut dire vraiment qu'il a fait quelque chose de grave. Ça, c'est une règle. C'est une règle. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou le disent les deux, c'est un péché, c'est un kufr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas vraiment un coffre, c'est quelque chose de grave. Si ce n'est pas vraiment un coffre, c'est quelque chose de grave. Ça, c'est une règle générale. Maintenant, j'ai dit, bien sûr, celui qui fait cela, il n'est pas devenu kafir, mais il a fait quelque chose de coffre. Il a fait un grand péché. Sauf si dans un seul cas, il devient kafir. Khalas. Il va partir en enfer éternellement. Dans quel cas? Dans le cas où il se dit, moi c'est halal, je m'en fous. Tu lui dis c'est haram, il te dit non, c'est halal. Moi, je m'en fous. Là, a'tarif bel hukm. Je ne reconnais pas. Je reconnais pas qu'il est haram. Malgré qu'il y a un hadith, je ne reconnais pas. Ça, bien sûr, ça, il est devenu kafir. Il n'y a pas. Personne. Il n'y a pas de divergence. Je veux dire, il n'y a pas de divergence. Celui-là, il est kafir. Maintenant, quelle est, si je puis dire, la solution quand quelqu'un cohabite avec sa femme en plein monstrue. Qu'est-ce qu'il doit faire ici, Bilal Azzawajal? Bilal Tafadari, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'a dit le hadith? Naam, il doit donner un dinar en or. Naam. Ou bien quoi? Il doit donner un dinar en or. Ou bien quoi? La moitié s'il n'a pas les moyens, naam. Ou bien il donne un dinar, ou bien il donne la moitié s'il n'a pas les moyens. Donc, certains ulama ont dit, et je crois que l'Albani a dit aussi cela, il a dit, c'est d'après, est-ce qu'on a assez d'argent ou là on n'en a pas. Si on a assez d'argent, on donne un dinar. Si on n'en a pas, on donne la moitié. Un dinar en or, j'ai dit une fois que un dinar c'est 5 grammes. Certains ont dit 4 grammes 42, d'autres ont dit c'est 5 grammes en or. Donc il doit donner l'équivalent de 5 grammes en or, ou bien il doit donner 2 grammes et demi en or. Donc beaucoup de ulama ont dit c'est d'après sa situation financière. S'il a assez d'argent, il doit donner un dinar. S'il n'en a pas assez, il donne un demi-dinar. D'autres ont dit que on donne un dinar ou bien un demi-dinar d'après autre chose. Quelle est cette chose? D'autres ont dit on donne un dinar ou un demi-dinar, c'est pas d'après la situation financière, mais d'après autre chose. Muzakaria, Sadli, quelle est cette chose? Ça, barakallahu fik. Naam, c'est ça. D'autres ont dit s'il fait le rapport au début des règles, il doit payer un dinar, parce qu'au début des règles, sa femme, ça fait seulement un ou deux jours, elle était pure. Donc, ça c'est grave. Il doit payer un dinar. Si c'est à la fin des règles, ils ont dit c'est moins grave. Pourquoi? Parce que, il en avait besoin, etc. Ils l'ont excusé. Mais, de toute façon, il a fait un péché. Le péché, il l'a fait. Mais, il doit faire sortir un demi-dinar en or. Autre question. Le hadith, lorsqu'il a dit, quiconque cohabite sa femme pendant les menstrues, il parle seulement des menstrues, il parle pas de anal, il parle des menstrues. Anal, c'est, je l'ai déjà dit, il est mel'oun, il est matroud, mais rahmatillah. On parle pendant les menstrues, si quelqu'un cohabite sa femme, bien avec sa femme, est-ce que le hadith qui a dit il doit payer un dinar ou un demi-dinar, est-ce qu'on doit comprendre de cela que donc, il peut cohabiter pendant les menstrues et verser un dinar ou un demi-dinar? Est-ce que c'est ça le sens du hadith? Est-ce que donc quelqu'un peut le faire comme ça, sciemment, amden, il le fait amden, ensuite il va dire je paye un dinar ou un demi-dinar. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un peut par exemple yettafiq avec sa femme, ils vont yettafiq, ils disent bien on va faire cela, ensuite on va payer un dinar ou un demi-dinar. Est-ce qu'ils peuvent cela? Abou Ilyas, ça fait pas. Abou Ilyas, j'attends ta réponse. Non, la hilata ma'allah. Non, la hilata ma'allah. Ça, c'est une issue pour quelqu'un qui s'est trompé ou là, qui ne savait pas. Ou là. C'est pas quelqu'un qui va le faire sciemment. Mais s'il le fait sciemment, bien sûr, il doit faire sortir. Il doit faire sortir. Et en même temps, il a quoi? Il a un péché, il a un péché. Maintenant, inshallah ta'ala, on va commencer le dars. On va commencer le dars bi'Allah azza wa jal. On va parler de l'istihada. Inshallah ta'ala, j'espère qu'on va terminer aujourd'hui ce dars pour pouvoir rentrer le prochain dars, inshallah ta'ala, dans la salat. Pour pouvoir rentrer, inshallah, dans la salat. Si j'oublie, vous me faites souvenir la prochaine fois aussi pour que je vous lise, 60 questions qui ont été posées au Cheikh bin Outaymin. yani sur les monstrues et les logis et comment qu'il a répondu. Naam, 60 questions sur les logis, comment qu'il a répondu. Autre chose avant de commencer le DAS, puisque je parlais de logis, quel est le maximum pour une femme qui a les logis, combien doit-elle rester au maximum sans faire la prière? Combien une femme qui a les logis doit rester au maximum sans faire la prière? Il y a un avis qui est basé sur un hadith, il y a un avis des ulama. Donnez-moi les deux avis, barakallahu fikoum. Hilal, tafadhali. Quarante jours, naam. D'après le hadith, elle doit rester 40 jours. Comme a dit Sahabi al-Jalila radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes, yani les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, restaient combien? Restaient 40 jours. Restaient 40 jours. Il y a un deuxième avis qui dit combien de jours? C'est l'avis de Cheikh ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Il dit combien de jours? Naam. Riyad, tafadhal. Riyad, tafadhal. Deux mois. Sah, 60 jours. Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Taymiyyah ont dit qu'elle peut rester jusqu'à 60 jours. Ils ont dit, on a vu qu'il y a des femmes qui, dans les règles, restaient des fois deux mois. Mais je crois que le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, quand une femme, surtout quand elle doute, elle sait pas, elle dit, je sais pas, elle se base sur le hadith. Elle dit, le hadith a dit 40 jours. Moi, je me base sur le hadith qu'on faisait les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Je n'oublierai pas de dire que une femme, quand elle termine les logis, il est possible qu'en même temps, elle commence les monstrues. Dans ce cas, bien sûr, elle ne doit pas dire, je suis pur. Pourquoi? Parce que tout en terminant les logis, elle a commencé les monstrues. Ça arrive, c'est les monstrues qui suivent directement les logis. Dans ce cas, elle doit rester jusqu'à ce qu'elle termine la hal. Elle termine ses monstrues. Autre question, pour une femme qui a l'habitude de voir les pertes blanches. Parce que j'ai dit que les femmes, c'était deux sortes. Celles qui ont les pertes blanches, celles qui n'en ont pas. Une femme qui a l'habitude de voir les pertes blanches pour les règles. Maintenant, supposons que ces monstrues commencent le 10 du mois. Alors, le 10 du mois, elle a eu ses monstrues. Et supposons qu'elle se termine le 16, du 10 au 16. Maintenant, le 10, elle a eu ses monstrues. Ensuite, le 14, pas le 16. Le 14, c'est devenu sec. Elle n'avait plus de sang. Le 15, elle n'a plus de sang. Le 14, il n'y a plus de sang. Le 15, il n'y a plus de sang. C'est sec. Est-ce que celle-là, elle doit faire la prière ou bien elle doit attendre encore? Est-ce que celle-là, elle doit faire la prière, c'est-à-dire se purifier et faire la prière, ou bien elle doit attendre encore? Naam, Bint Hashmi. Naam, tafadhali. Est-ce que celle-là, elle peut faire la prière ou elle doit attendre? Hier, je vous ai expliqué qu'il fallait faire le nombre de jours habitués. Naam, avant que je te réponde, je cherche une autre. Allah, elle doit attendre 6 jours. Là, j'attends un autre qui répond, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a un autre qui répond? Une femme qui a, je dis bien, qui a l'habitude de se purifier en voyant les pertes blanches. Cette fois, elle ne les a pas encore eues, les pertes blanches, elle voit qu'elle s'est purifiée. Est-ce que celle-là, elle attend ces jours où là, elle peut commencer? Maya 91, s'il vous plaît. Maya 91. Maya, tafadhali. Je parlais bien d'une femme qui a les pertes blanches. C'est pas de celle qui n'en a pas. Je vois pas la réponse. Non, peut-être qu'elle est en train d'écrire. Elle doit attendre jusqu'à qu'elle voit ses pertes blanches. Non, elle doit attendre. Pourquoi? Parce que elle a l'habitude de voir les pertes blanches. Celle qui a l'habitude de voir les pertes blanches, jamais elle ne va prendre sa douche jusqu'à ce qu'elle voie les pertes blanches. Maintenant, quand elle n'a pas les pertes blanches, celle-là, elle compte ses jours. Quand elle n'a pas les pertes blanches, ensuite, elle a l'habitude que ses règles durent 6 jours. Ensuite, aujourd'hui, 4 jours, elle est pure. Celle-là, elle ne doit pas faire la prière. Elle attend le 6e jour parce que ses habitudes, c'est 6 jours. Ses habitudes, c'est 6 jours. Mais je dis, je redis, celle qui a les pertes blanches, elle doit les attendre. Elle doit les attendre. Ce sont le délil. Ce sont le délil que elle a été pure. Maintenant, dernière question, inshallah ta'ala. Dernière question. Quand une femme, par exemple, c'est pour ça que je redis encore, quand une femme se purifie, plutôt ne voit plus de sang, en plein milieu des menstrues, elle se dit pas je suis pure. Elle doit dire je suis avec les menstrues. Une femme qui a par exemple 7 jours de menstrues, ensuite le 3e jour, elle voit qu'elle n'a pas de sang, faut pas qu'elle dise donc je vais me laver. Non, elle doit dire non. Tant que j'ai pas les pertes blanches, ça veut dire je suis en menstrues. C'est pour ça que les ulama ont dit l'ibra, c'est pas seulement le sang qui compte, c'est aussi la période. Quand on est en la période, même si on n'a pas de sang, on est en menstrues. Quand on est en la période, même si on n'a pas de sang, on est en menstrues. Dernière question, quand une femme, par exemple, d'habitude, c'est le 10e jour qu'elle a les menstrues, le 10e jour, par exemple. Maintenant, le 6e jour, elle a un liquide marron qui est sorti. Le 6e jour, elle a un liquide marron qui est sorti et il est resté toute la journée. Le 6e jour, il est resté. Ensuite, le 7e, il est parti. Le 7e, il est parti. Est-ce que celle-là, elle est dans la période des règles ou là, le sang a qui a coulé, marron ou bien jaune, ou bien il ne fait pas partie des règles? Comme Zakaria. La femme qui est précédée par un liquide marron ou jaune, avant les jours de ses règles. Avant les jours de ses règles. Est-ce que ça fait partie des règles ou ça ne fait pas? Comme Zakaria a dit oui, c'est la période des règles. Je vous salam à 57. Salama, il fait partie des règles. Comme Zakaria, non, le liquide marron. Pas le liquide jaune. Non, le liquide marron, pas le liquide jaune. Ça, j'ouvre l'aile, 400, j'ouvre l'aile. Pas parti des règles. Salama a redit maintenant, Salama est revenue. Elle a dit, ça fait pas partie des règles. Non, ça veut dire qu'elle a dit la même chose. Elle dit, ça fait pas partie des règles. L'aile. L'aile 406. Abdelrahman. 2 jours avant les règles. 2 jours et ça s'est coupé. Abdelrahman, ça ne fait pas partie des règles. Ayman. Ayman. 2 jours avant les règles. C'est pas, fait pas partie des règles, car il y a une coupure. Non, maintenant, c'est terminé. Donc, la vraie réponse, Inch'Allah Ta'ala, ça ne fait pas partie des règles. Non, ça ne fait pas partie des règles. Pourquoi? Ça doit faire partie des règles si ça s'est collé aux règles, si ça s'est pas coupé. Si ça se coupe pas, on dit ça fait partie des règles. Mais si, avant les règles, il y a quelque chose qui vient marron ou la marron foncé ou la jaune et il n'y a pas les règles immédiatement, ça se coupe, on ne doit pas compter cela des règles. On se lave et on fait la prière. On se lave et on lave les parties intimes, c'est tout. On fait des petites ablutions et on fait la prière. Pour compter le liquide jaune ou bien le liquide marron, pour le compter des règles, il faut qu'il soit collé avec les règles. S'il vient, yani lui il commence, ensuite les règles après, c'est collé, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas une demi-journée de coupure ou une heure. Il faut que ça vienne, yani en même temps. Dernière question, normalement j'ai terminé, mais malgré j'ai une autre question qui me vient maintenant à la tête. Maintenant une femme, yani khlas. Elle a terminé ses règles, elle a bu le liquide blanc. Elle s'est lavée, et ensuite, après s'être lavée, une demi-heure ou là, 1 heure ou là, elle voit un liquide marron ou là, un liquide jaune. Est-ce qu'il fait partie des règles? Est-ce que ça fait partie des règles? سلامة 57. Non, c'est pas parti des règles. Non. Il est. Car c'est après. Non. Donc, je suppose que les autres aussi vont répondre à la même chose. Maintenant, quand il y a les pertes blanches, c'est le délil. C'est le délil que tout ce qui vient après, ce n'est pas les règles. C'est le délil que ce qui vient après, ce n'est pas les règles. Maintenant, reste seulement une chose. Reste seulement une chose. Quoi? Si maintenant, ce que je vais dire, c'est rare, mais il arrive. Ce que je veux dire, c'est rare, mais il arrive. Maintenant, une femme a vu les pertes blanches. Alhamdoulilah, elle a pris la douche. Ensuite, un jour après ou là, elle a eu de nouveau les règles. Les règles et pas un liquide marron ou là. Elle a commencé direct par le noir. Les règles et c'est resté comme ça. Les ulama ont dit, c'est possible que elle a une deuxième période de règles en un mois. Comme on a cité la femme qui a eu trois fois les règles en un mois. Mais ça, ce n'est pas le liquide jaune ou là qui vient après les pertes. C'est le liquide noir, avec sa couleur et son odeur, etc. Celui-là, c'est une maladie, donc elle a, c'est pas normal, mais ça arrive. Donc elle a une deuxième période de règles. Mais si c'est un liquide marron ou la c'est un liquide marron ou la jaune là, ça veut dire ce n'est pas les règles, c'est purifié. Maintenant, inchallah ta'ala, on va commencer. Le nouveau dars. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Qu'est-ce que je voulais dire? Abou Lias, tu connais ce qui d'habitude je leur enlève le point rouge. Aide-moi, barakallahu fik. L'istihada, c'est la veine saignante. La veine saignante. Naam. C'est quoi, ta'rifouha? Hiya an yastamirra bil mar'ati khuruj dam ba'da ayyam haydha al mu'tada. La veine saignante, ça s'appelle aussi, on m'a dit, en métrorragie. Ça, c'est quoi? C'est ta'rifouha. C'est que le sang reste et continue à couler après les règles. Si le sang continue à couler après les règles, on appelle ça métrorragie. On appelle ça métrorragie. On appelle ça aussi veine saignante. Veine saignante. Maintenant, ahwal mustahada. Celle qui a les veines saignantes, elle ne sort pas de trois cas. Elle ne sort pas de trois cas très connus. Premièrement, il faut bien comprendre les trois cas. Barakallahu fikum. Il faut bien les comprendre. Vous aiderez beaucoup de gens, surtout les femmes. Vous aiderez beaucoup de femmes qui ne comprennent pas ces choses et qui ne font pas la prière où il faut la faire, ou bien font la prière là où il faut pas la faire. Vous aiderez inchallah ta'ala beaucoup les gens. Bon, je disais, celle qui a les métrorragies, l'istihada, la veine saignante, elle ne sort pas de trois cas. Le premier cas, an takuna muddatul hayd ma'rufa laha qabl istihada wa fi hadhihi alhalati تعد هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض والباقي استحاضة. لأم سلمة, حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها, أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتختسل وتستنفر ثم تصلي. تستغفر ثم تصلي. Donc le premier cas de celle qui a la métrorragie, c'est une femme qui d'habitude connaît ses règles. C'est-à-dire, avant de tomber malade de l'hémorragie, elle connaît ses règles. C'est-à-dire, elle connaît, l'habitude de ses règles. Elle sait que, par exemple, elle a tout le temps 6 jours. Elle a tout le temps 7 jours. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit maintenant, par exemple, ça fait 15 jours ou 20 jours que j'ai le sang. Il ne s'est pas arrêté. 15 jours ou 20 jours. Comment vais-je savoir où sont les règles? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle se dit, moi, d'habitude, par exemple, chaque mois, le 10e jour, je commençais les règles, du 10 au 16. Donc, je vais faire comme ça chaque mois. C'est-à-dire, chaque mois, à partir du 10e jour, elle arrête de faire la prière. Et le 16e jour, qu'est-ce qu'elle fait? D'habitude, elle restait du 10 au 16, par exemple, elle se lavait le 17e. Donc, le 17e jour, elle va se laver. Voilà comment qu'elle doit faire. Donc le premier cas, celle qui a les métrorragies et en même temps a une habitude dans les règles. Elle est bien réglée. elle sait que c'est toujours 6 jours, ou disons maximum 7 jours. Cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend maximum 7 jours, ensuite elle se lave. À partir de quand elle commence à compter les 7 jours, ou les 6 jours, elle commence à les compter d'après son habitude. Si par habitude elle les avait le 10, ensuite chaque fois il retardait 2 jours. L'autre mois, elle commence à compter à partir du 8. L'autre mois, elle compte à partir du 6. Et elle fait comme ça. Maintenant, si elle est du genre, elle vient toujours le même jour, toujours le 10e jour. Donc, à partir du 10, elle compte. Elle compte 6 ou 7 jours. Elle dit, ceux-là, je vais les compter comme menstrués. Et quand elle termine le 6e jour ou le 7e, d'après son habitude, elle se lave et elle commence à faire la prière. Elle est obligée de faire la prière. Donc, le premier cas, c'est pour une femme qui a son habitude dans les règles. Le deuxième cas, أن يستمر بها الدم, يعني elle a le sang qui coule, ولم يكن لها أيام معروفة, mais elle ne connaît pas de jours précis. Des fois c'est 2 jours, des fois c'est 6 jours, des fois c'est 3 jours. Elle n'a pas de règles précises, des traits déréglés. Celle-là, إما أنها نسيت, pourquoi est-ce qu'elle ne connaît pas ces jours? Pourquoi? Ou bien qu'elle a oublié, son habitude. Elle dit, oh là, j'ai oublié combien j'avais l'habitude. C'est un peu rare, mais ça arrive. Ou bien elle oublie. Ou balaghat mustahada. Ou bien, quand elle a, pour la première fois, elle a eu les règles, ou plutôt, pour la première fois, quand elle est devenue pubère, balaghat. Quand elle est devenue pubère, elle a commencé directement par la métrorragie. Elle n'a pas commencé par les règles. À 10 ans ou là, 11 ans ou là, elle a eu directement la métrorragie. Donc celle-là, comment qu'elle puisse faire la différence entre les règles et entre la métrorragie? C'est difficile pour elle. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? في هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit dire, donc je prendrai comme règle 6 ou 7 jours على غالب عادة النساء. على غالب عادة النساء. Et beaucoup d'ulama ont dit, celle-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Celle-là, elle doit voir l'une de ses parents les plus proches. Elle demande par exemple à sa sœur, ou bien elle demande à sa mère. Elle demande à sa sœur, elle dit par exemple, toi, combien de jours tu as dans les règles? Si sa sœur lui dit par exemple 6 jours, elle doit appliquer, elle doit dire, donc je vais faire comme toi. À partir d'aujourd'hui, je vais compter 6 jours. Si maintenant, par exemple, elle demande à sa mère, elle lui dit 7 jours, elle prend de l'avis de sa mère, par exemple. Donc, c'est pour celle qui ne connaît pas l'habitude de ses règles, ou bien pour celle qui, lorsqu'elle est devenue pubère, elle a commencé direct par la métrorragie, direct par istihada. Elle n'a pas eu les règles. Donc, elle ne peut pas faire la différence. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à une femme qui est proche d'elle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée une famille, elles sont toutes proches d'elle. Elles sont presque les mêmes. En ce qui concerne les monstres, etc. C'est pour ça que, il y a un hadith qui dit, Hamna bint Jahsh, radiallahu ta'ala anha, a dit, Kuntu ustahab haydatin kathiratin shadida. Elle a dit, j'avais des métrorragies au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était, c'était pas peu. Ça coulait beaucoup de sang coulait. Fa'ataytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, astaftaytu. Je suis allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la question et pour, lui parler de mon cas. فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش. Je l'ai trouvé dans la maison de ma sœur Zainab. Celle-là, elle s'appelle Hamna bint Jahsh. Elle est allée demander au prophète عليه الصلاة والسلام pour son cas. Elle a trouvé chez sa sœur Zainab bint Jahsh. فقلت يا رسول الله إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة. Je suis une femme qui a des hémorragies très difficiles et qui coule beaucoup. Que dois-je faire? Admanatni salat ou som. Je ne fais ni la prière ni le jeûne. Je ne fais ni la prière. Et comment puis-je faire la prière et le jeûne avec un sang qui coule comme ça, qui coule à flot? Faqala an'utu laki al-kursuf. Fa innahu yadhhabu ad-dam ou yudhhibu ad-dam. Il a dit, je vais te montrer le coton que tu dois mettre parce que il va de sorte que le sang ne coule pas beaucoup. فَقُلْتُ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ. Elle lui a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus que tu ne penses. Soit tu penses que c'est seulement un peu de sang qui coule, je vais mettre un peu de coton, ça va s'arrêter. C'est beaucoup plus que tu ne penses. Donc il a dit, puisque c'est beaucoup, le coton ne suffit pas, prends un vêtement. Prends un vêtement, tu le mets, tu l'attaches. Tu attaches un vêtement, c'est plus sûr qu'un petit morceau de sang. Petit morceau de coton. Il lui a dit donc, tu prends un vêtement, tu l'attaches. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, bien sûr, des couches, etc. فقلت قالت هو أكثر من ذلك إنما السج سجى. Elle lui a dit c'est beaucoup plus que tu n'en penses. Même si je vais mettre un vêtement ou la découche ou là, il va pas s'arrêter. Il coule beaucoup. فحول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين. سأمرك بأمرين. Ensuite il a dit je vais te montrer comment tu dois faire et il lui a expliqué une chose qu'on va, inshallah, dire plus tard. On va dire un peu plus tard, ça va venir. Il va montrer comment qu'elle doit se laver, etc. On va citer, inshallah, un peu plus loin. Troisièmement, donc je répète, le premier cas, il y a trois cas pour quelqu'un, une femme qui a les hémorragies ou l'hémétrorragie. Il y a le premier cas, elle connaît l'habitude de ses règles. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend comme ses habitudes. Elle dit, l'habitude, il vient le 10, elle vient le 10, les règles. Donc, le 10 de chaque mois, je vais rester 5 ou 6 jours, comme son habitude. Deuxième cas, elle ne connaît pas son habitude. Elle l'a oublié, ou bien, quand elle était pubère, elle a commencé direct par la 25 ans. Direct. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'habitude de sa sœur, ou de sa mère, ou de sa tante, yani quelqu'un qui est proche d'elle. Le troisième cas, elle n'y stamira biha d'dam, wa lam yakun la ayyam ma'roufa. Troisième cas, il y a beaucoup de sang qui coule, et, premièrement, elle ne connaît pas ses jours, et deuxièmement, elle ne peut pas faire la différence entre le sang. Non, elle n'a pas d'habitude. Si elle avait l'habitude, elle prendrait par exemple 6 jours comme d'habitude. Maintenant, elle n'a pas d'habitude, elle ne sait pas. Et autre chose, elle ne peut pas faire la différence entre les sangs. Elle n'a pas assez d'expérience, ou bien pour faire la différence, ou bien parce que le sang est le même. Le sang est le même, il est toujours rouge ou toujours noir. Comment on va faire dans ce cas? Qu'est-ce qu'elle va faire? Le troisième cas, c'est pas celui-là, pardon, je me suis trompé. Le troisième cas, c'est elle n'a pas d'habitude, mais elle peut faire la différence. Voilà, le troisième cas, elle n'a pas une habitude, mais celle-là, alhamdoulilah, elle peut faire la différence. Elle connaît que le sang des monstres a quatre signes, qu'il est noir, qu'il a une odeur, qu'il est gras et qu'il se coagule pas. Donc, quand elle regarde le coton, par exemple, elle peut faire la différence. Elle se dit, celui-là, il est rouge, celui-là, il est noir, celui-là, il a une odeur, celui-là, il n'a pas, etc. Dans ce cas, bien sûr, elle doit prendre d'après Tamyiz, d'après la différence qu'elle fait. D'après les hadiths, Fatima bint Abi Hubeish, radiallahu ta'ala anha, Anakin Tustahab. C'est une autre sahabiya Jalila. Elle avait aussi beaucoup de métrorragie. Elle a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, إذا كان الدم إذا كان الدم حيض فإنه أسود يعرف. Il lui a dit, si c'est le sang des menstrues, il est noir, il est connu. فأمسك عن salat. Donc ne fais pas la salat. فإذا كان الآخر, si c'est l'autre sang, c'est-à-dire qu'il n'est pas noir, فتوضأي إنما هو عرق. Donc, c'est la prière, c'est seulement une veine saignante. Donc, celle qui peut faire la différence et connaît les signes et peut savoir si ce sang est le sang des monstrues ou là, ce n'est pas le sang des monstrues, elle marche avec quoi? Elle marche avec la différence. Elle regarde. Quand elle voit qu'il est noir, qu'il a une odeur, etc., elle arrête. Quand elle voit qu'il est rouge, il n'a pas d'odeur, etc., elle dit non, Hada, ce sont quoi? C'est la veine saignante et ce n'est pas les monstrues. De toute façon, je n'oublierai pas de dire qu'une femme qui a la veine saignante, l'hémétrorragie, elle ne doit jamais dépasser 15 jours. Elle ne doit jamais dépasser 15 jours avec l'hémétrorragie. Jamais. Si elle a par exemple les règles, ensuite ça ne s'arrête pas. 6, 7, 8, 9, 10, 10 jours, le sang ne s'arrête pas. 11 jours, 12 jours, elle attend. 13 jours, 14, 15e jour, ça s'est pas arrêté. Celle-là, elle va vite se laver. Ensuite, elle met quelque chose dans ses parties intimes. Elle se couvre bien. Et elle commence à faire la prière. Et elle commence à jeûner à partir Le 15e jour, comme on dit, la plupart de Mourl Ulama, Cheikh Ibn Othaymin, Ali Rahmatullah et les autres. Jamais une femme ne peut rester plus de 15 jours en s'excusant, en se basant sur les règles. Elle se dit, c'est les règles, je ne peux rien faire. Ce n'est pas les règles. Il n'y a pas les règles plus de 15 jours. Ça ne s'est jamais vu. Même s'il y en a, on ne doit pas les compter comme règles. À partir du 15e jour, on se dit, là, on est malade. Donc on a la 25e, et on doit commencer à faire la prière. أحكام المستحاضة qu'est-ce qu'il est permis à يعني celle-là qui a la 25e et les métroagies qu'est-ce qui lui est permis جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء il est permis à son époux de la cohabiter il est permis à son époux de la cohabiter même avec يعني le sang qui coule la 25e لأنها كطاهرة في صلاة الصوم وغيرها pourquoi parce qu'elle peut faire la salat et ça c'est moins grave que la salat le fait de la cohabiter celle-là qui peut faire la salat et Allah Azza wa Jal accepte d'elle sa salat pourquoi il n'accepterait pas de moi que je fasse cette chose donc cette chose c'est halal donc cette chose c'est halal et puis il n'y a aucun délit qui dit que c'est interdit il n'y a aucun délit qui dit que c'est interdit parce qu'on a dit que la veine saignante irq c'est une veine qui saigne c'est un sang qui n'est pas le sang des monstrueux. Il n'est pas le sang des monstrueux. Ça s'appelle Dhamfasad. C'est un sang qui est pur. Ça veut dire elle lave seulement l'endroit et elle fait la prière, elle lave l'endroit et son mari peut y aller la cohabiter, comme j'ai dit, après s'être lavé la première fois. قال عبد الله بن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم نعم صح ذكره البخاري معلقا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه هذه المستحاضة celle qui a la 25e son mari peut la cohabiter si elle fait la prière il a dit الصلاة أعظم la prière يعني أعظم عند الله سبحانه وتعالى et elle peut la faire donc cohabiter يعني c'est moins grave وعن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال كانت أم حبيبة تستحاض Mouhabiba avait les métroragies, fakana zoujouha yakhshaha. Et son mari faisait les rapports avec elle. Wa an Hamna binti Jahsh, celle dont on a parlé tout à l'heure, la sœur de Zayn bin Jahsh, anna kent mustahada. Elle avait les métroragies, wa kana zoujouha yujami'ouha. Et son mari faisait les rapports avec elle. Donc, première des choses, celle qui a les métroragies, son mari peut l'approcher. Parce que son sang n'est pas un sang de monstre, à condition, comme j'ai dit, qu'elle se lave d'abord, yani, qu'elle se lave après le 15e jour, qu'elle se lave. Deuxièmement, أنها تؤمر بالإحتياط في طهارة الحدث النجس. فتغسل فرجها قبل الوضوء قبل التيمم وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجسة وتقليلا لها. فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستدفرت كما هو معروف في الكتب المطولة. Il y a ulama on dit, pour plus de sécurité, yani, elle doit toujours mettre quelque chose, par exemple des couches ou là, un vêtement, ou là, je ne sais pas ce que mettent les femmes, en cet endroit, pour empêcher que le sang ne coule. Pour empêcher que le sang ne coule quand elle fait la prière, etc. Même déjà quand il coule dans les vêtements, yani, ça ne se fait pas. Donc elle doit mettre un vêtement pour empêcher le sang qui va couler. Le sang qui va couler, car on peut pas, yani, ça ne se fait pas, par exemple, elle fait la salade. Alors que le sang est en train de couler. C'est pour ça qu'il doit mettre un vêtement pour que le sang, quand il coule, il reste dans les vêtements ou là, dans les couches. Troisièmement, وَمِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْوُضُوءُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ صَلَاةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذْ طَهَارَتُهَا ضَرُورِيَّةٌ فَلَيْسَ لَهَا تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِ حَاجَةٍ. Il lui est interdit. Troisièmement, il lui est interdit qu'elle fasse les ablutions avant, yani, que le moment de la salat soit arrivé. Par exemple, le dhohr, supposons, enfin, c'est un exemple. Par exemple, le dhohr, c'est à 12h30. Le dhohr, c'est à 12h30, on entend l'appel du mu'adhdhin à 12h30. Elle peut pas, à 11h, elle va faire les petites ablutions. Elle peut pas. Il faut qu'elle attende que la salat est rentrée, son moment est rentré, et que khlas, elle veut la faire maintenant. Parce que des fois, l'heure est rentrée, et on va pas la faire maintenant. Je suis avec le bébé, ou là, je suis avec le manger, ou là, donc j'attends un peu. Donc, dans ce cas, je fais pas les ablutions. Je fais les ablutions, elle fait ses ablutions la dernière minute avant de rentrer dans la salat. Elle se dit maintenant, je vais faire la salat. Donc, elle commence ses ablutions et elle rentre dans la salat. Quatrièmement, لا يجب عليها الغسل لشيء من صلاه ولا في وقت من اوقات الا مره واحده حينما ينقطع حيضها وبهذا قال الجمهور من سلف والخالف. Quatrièmement, se laver entièrement, le lavage majeur, il ne lui est demandé qu'une seule fois. Yani, il ne lui est demandé de se laver, le lavage majeur, comme on se lave de la janaba, qu'une seule fois. Naam. Il ne lui est pas demandé de se laver le lavage majeur à chaque fois. Mais il lui est demandé de se laver une seule fois le lavage majeur quand est-ce, comme j'ai dit. Yani, elle a su que khlas, c'est une veine saignante et ce n'est pas les menstrues. Le 15e jour, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave et elle se lave une seule fois. Ça lui suffit. عند جمهور العلماء. خامسا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة. Il est obligé qu'elle fasse le wudu pour chaque salat. Je répète, quant au ghusl, le lavage, elle ne le fait qu'une seule fois. Mais le ghusl, elle doit le faire pour chaque salat. Il lui est interdit, par exemple, qu'elle fasse salat au dhuhr. Ensuite, elle reste comme ça. Et quand elle entend la prière du asr, elle va dire, puisque je n'ai pas perdu mes ablutions, donc je vais faire le asr. Il lui est interdit. Il faut que, quand elle va faire le asr, elle fasse aussi ses ablutions. Quand elle va faire le maghrib, elle fait aussi ses ablutions. Et à chaque fois, avant de faire les ablutions, elle commence par les parties intimes. Elle se nettoie là-bas, elle se purifie, elle met un vêtement, elle les couche, etc. Ensuite, elle commence par les ablutions, elle fait la salat. Donc chaque salat avec son wudu. Fatima bin Jahsh, elle a quand même sahab, le prophète alayhi sallam, قال توضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة. C'est يعني un wudu pour كل صلاة. Il lui a dit, إنه دم عرق فتوضأ إلى كل صلاة. C'est une veine saignante. C'est le sang d'une veine. توضأ إلى كل صلاة. Il y a un hadith où il est dit que c'est une veine saignante. Et un autre hadith où il est dit que إنما هو أو هي ركضة من ركضة الشيطان. Il a dit c'est un coup de pied du shaitan en parlant de l'istihada, en parlant de la veine saignante, en parlant des métrorragies. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué, c'est dû à quoi? D'un côté, il a dit, c'est une veine qui saigne. De l'autre côté, dans un autre hadith, il a dit, c'est un coup de pied du shaitan. Certains, qui ont la foi faible ou là, ils vont se dire, alors le prophète alayhi sallam, yani, il s'est contredit. D'un côté, il dit, c'est le shaitan. D'un autre côté, il dit, c'est une veine seulement qui a saigné. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ne se contredit. Et les ulama ont dit, quand il a dit c'est un coup de pied du shaitan et quand il a dit c'est une veine saignante, on peut joindre entre les deux hadiths. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le shaitan donne un coup de pied à la veine qui éclate et commence à saigner. Masha'Allah, c'est très simple. Naam. À quoi est due la métrorragie? Istihada, à quoi est-elle due? Elle est due au shaitan qui donne avec son pied, il donne un coup de pied à la veine. Parce qu'elle est enflée, il lui donne un coup, et elle commence, qu'est-ce qui se passe? Là, elle a éclaté. Elle commence à saigner. Donc, alhamdoulilah, yani, kalamu rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam, kulluhu haq. Naam. Sixièmement, anna la hukm tahirat, tu salli wa tasum wa ta'tazkif wa taf'alu kulla al-ibadat. Sixièmement, elle est comme une femme qui est pure. Celle qui a les métrorragies, c'est comme une femme qui est pure à 100%. C'est-à-dire, elle fait la prière, elle fait le jeûne et elle fait toutes les ibadettes. Elle lit le Coran, elle prend le Coran, elle va à la mosquée, elle fait toutes les ibadettes. Pourquoi? C'est une maladie et ce n'est pas les menstrues. Ça n'a rien à voir avec les menstrues. Maintenant, je voudrais dire une chose importante pour celle qui a la veine saignante. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. En ce qui concerne, j'ai dit tout à l'heure, il lui faut le ghusl. Je répète, quant au wudu, le wudu c'est pour ça que chaque salat. Parlons du ghusl, le lavage majeur, il lui faut. Yani, quelle est la sunna dans le lavage majeur en ce qui concerne la femme qui a la veine saignante? La sunna est venue, yani, de 4 ou 5 façons différentes. tous les hadiths, toutes les façons que je vais citer sont basées sur des hadiths sahih qui se trouvent dans les hadiths de Cheikh Al-Albani, Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmidhi et les autres. Non. Premièrement, ou bien, elle fait le ghusl une fois seulement, quand j'y dis, quand elle sait que c'est la veine saignante. Elle fait un seul ghusl, et maintenant elle ne va plus faire de ghusl jusqu'au mois prochain à la même date. Donc, ou bien elle fait un seul ghusl. Ensuite, à chaque fois le wudu, à chaque prière le wudu, chaque prière le wudu. Et combien qu'elle a fait pendant le mois de ghusl? Un seul. Ou bien, dans un autre hadith, il a dit, le ghusl عند الظهر. Ou bien, chaque jour, elle fait un ghusl à Salat al-Dhuhr. Chaque jour, elle fait un ghusl à Salat al-Dhuhr. Yani, toutes les 24 heures, elle fait un ghusl. C'est toujours sunnah, c'est pas obligé. Non. Ou bien, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien, le ghusl عند الجمع. Ou bien, elle fait Dhuhr et Asr. Elle fait les deux prières en même temps. Elle laisse Salat al-Dhuhr jusqu'à presque sa fin et elle fait la Salat al-Dhuhr. Ensuite, dès qu'elle termine le Dhuhr, elle fait la Salat du Asr parce que le Asr vient de rentrer. Dans ce cas, si elle va joindre entre Dhuhr et Asr, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle fait un ghusl. Elle va se laver, elle fait le lavage majeur et elle va joindre entre deux prières. Elle laisse la prière du Dhuhr jusqu'à la fin. Dès qu'elle termine le Dhuhr, elle fait l'Iqama encore une fois, elle fait Salat al-Asr parce que le Asr vient juste de rentrer. Peut-être dès qu'elle termine le Dhuhr, elle entend l'Adhan du Asr. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle fait un ghusl avant qu'elle colle entre les deux salats. Et elle fait un deuxième ghusl avant de joindre entre le Maghrib, la Salat du Maghrib et la Salat du Isha. Elle veut joindre parce que celle qui a la veine saignante, c'est difficile pour elle à chaque fois de se laver les parties intimes, de mettre des couches pour faire la prière. Donc il lui est possible de quoi? De joindre entre les deux salats. Elle colle le Dhuhr avec le Asr et le Maghrib avec le Isha. Elle les colle jam'an souriyan, c'est-à-dire elle fait retarder la première salat jusqu'à ce que rentre la deuxième salat et elle les fait les deux en même temps. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai dit? Elle doit faire le ghusl avant de joindre entre les deux salats. Et elle fera un autre ghusl pendant Salat Subh. Dans ce cas, elle fera trois ghusls par jour. Un ghusl Salat Subh pour faire la prière du Subh. Un ghusl pour joindre entre les deux salats, Dhuhr et Asr. Et un ghusl pour joindre entre le Maghrib ou l'Isha. Ou bien autre chose. Et celle-là, c'est la meilleure. C'est difficile, mais c'est la meilleure. Un tartasila عند كل صلاة الغسل عند كل صلاة شك صلاة الفي الغسل يصاب bien sûr c'est la chose la plus difficile et la plus difficile mais pour celle qui peut la faire bien sûr c'est quelque chose يعني de très bien mais الله عز وجل ne nous demande pas de faire quelque chose bien sûr qu'on peut pas quelque chose c'est difficile on peut pas c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parlait pour montrer à la femme, je crois que Hamna bint Jahsh, quand il lui a montré, yani, il lui a dit, pour moi, la meilleure des choses pour moi, c'est que tu fasses un ghusl. Ensuite, tu joues entre le Dhuhr et le Asr. Ensuite, tu fais un ghusl. Tu joues entre le Maghrib et le Isha. Et tu fais un ghusl pour Salat al-Fajr. Il a dit ça, c'est la meilleure, yani, la façon que j'aime le plus. Mais ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Donc, moi, je dirais à mes sœurs, pour le résumer, pour que ça reste bien ancré dans la tête, yani, la plus faible, c'est celle, quand je dis la plus faible, c'est pas haram. Pour montrer, yani, ce qui se fait, mais ça se fait. La plus faible, c'est celle qui fait un ghusl seulement une fois. Seulement une fois pour le mois. Elle va faire ce ghusl et elle va faire plus de ghusl. Jusqu'au mois prochain, quand c'est le début aussi, qu'elle sait que les règles sont terminées, elle dit, je vais commencer maintenant le ghusl. Donc, La plus faible, c'est celle qui fait un seul ghusl, mais c'est permis, ce n'est pas haram, ni makruh, ni rien. C'est valable, c'est permis, c'est jaiz, surtout la femme qui est fatiguée, surtout la femme qui a des enfants, surtout la femme qui a dit, elle fait un seul ghusl. Maintenant, quand elle fait un seul ghusl, bien sûr, elle doit se faire les ablutions pour chaque salat. Et chaque salat, il lui faut des ablutions. Elle ne peut pas faire salat al-dhuhr et l'asr avec une seule ablution. Elle doit à chaque fois renouveler les ablutions. Maintenant, il y a mieux que cela. Elle fait un rousse une fois par jour. Maintenant, il y a mieux que cela. Elle fait trois rousses par jour. Trois rousses. Un, pour coller entre Dhuhr et l'Asr. Deuxième rousse, pour coller la salat de Maghrib à l'Aïcha. Et troisième rousse, quand elle sera probablement la quatrième chose. Et encore mieux, c'est que chaque salat, elle lui fait un rousse, mais je dis pour celle qui a la veine saignante. Maintenant, il reste seulement quelque chose, je vais terminer, inshallah ta'ala. Maintenant, si une femme, je voudrais terminer aujourd'hui pour ne plus, parce que le prochain dars, salat, c'est la salat. Et la salat, c'est très important. Et vous verrez, inshallah ta'ala, qu'il y a mille et une choses qu'on ne connaît pas dans la salat. Mille et une choses qu'on ne connaît pas ou qu'on fait faux. On fait faux dans la salat. C'est pour ça que je voudrais, inshallah, terminer aujourd'hui. Surtout que demain, inshallah ta'ala, je ne travaille pas. Donc, je voudrais terminer. Allez. Maintenant, ce qui concerne. Celle qui avait les monstrues. Ou bien qui avait les lochis, bien sûr, celle-là, comme j'ai dit, elle rattrape seulement le jeûne, elle ne rattrape pas la salat. La femme qui avait les monstrues, qui avait les lochis, rattrape seulement en ce qui concerne le jeûne et ne rattrape pas la salat comme font les khawarij. C'est pour ça qu'il y a une femme qui est allée demander à Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui s'appelle Mu'ada. Elle lui a dit, est-ce que l'une de nous, quand elle se purifie, est-ce qu'elle fait seulement la salat ou bien elle fait l'autre? Aïcha lui a dit, « Aharouria intenti, tu viens de Haroura. » Haroura, c'est un endroit. Comment dire quelqu'un? Tu es Marseillais, toi tu es Algérien, tu es Parisien. Il lui a dit, « Harouria, tu es de Haroura. » C'est un endroit où il y a les Khawarij. Il lui a dit, « Non, j'ai demandé. » Elle lui a dit, « Ah bon, hein? Je croyais Harouria, je croyais que tu étais de Kharijit. » Les Kharijit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, même une femme, quand elle a les monstrues, elle doit les rattraper. Après s'être lavée, elle doit rattraper les jours où elle a pas fait la salat. Alors que nous on dit la salat jamais, une femme qui a les monstrues ou les lochis, jamais, elle la rattrape. Elle rattrape seulement le siyam. Maintenant, il a tahourat al-ha'id ba'd al-asr ou ba'd al-isha. Supposons qu'une femme, maintenant elle a les monstrues, toute la journée elle a les monstrues. Ensuite, après salat al-asr, elle a entendu l'adhan de l'asr par exemple, elle se voit purifiée. Celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va faire la prière de l'asr parce qu'elle se voit purifiée maintenant? C'est le waqt, c'est le moment de la prière de l'asr. Est-ce qu'elle doit faire seulement la prière de l'asr ou bien elle doit faire en même temps la prière du dhuhr? Et la même chose quand une femme se purifie pendant salat l'Isha. C'est salat l'Isha, c'est 10h par 22h, à 22h elle s'est purifiée. Salat l'Isha, ça se termine après minuit. Maintenant, est-ce qu'elle va faire seulement, elle va se laver, elle va faire seulement l'Isha, ou bien elle va faire le Maghrib aussi? La plupart des ulamas disent qu'elle doit faire, dans ce cas, dans le premier cas, elle fait Dhuhr et Asr. Et dans le deuxième cas, elle fait Maghrib et Isha. Elle fait pas seulement le Asr dans le premier cas, et elle fait pas seulement l'Isha dans le deuxième cas. Ça, c'est l'avis de la plupart des ulama. Minhum, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, minhum l'Albani, et Kathir min Salaf. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, il a dit, elle n'est pas obligée. Il a dit, dans un cas pareil, elle se purifie pendant l'As, elle fait seulement l'As, elle ne fait pas le Dhar. Elle se purifie pendant l'Isha, elle fait seulement l'Isha, elle ne fait pas le Maghrib. Moi, inshallah ta'ala, vous êtes libre de choisir entre les deux. Il n'y a pas comme ça un délit qui est fort, qui montre. Moi, j'ai pris et je prends avec ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Pourquoi? Parce que Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr se joignent. La preuve, dans le safar, quand tu es en voyage, ou même quand tu n'es pas en voyage, tu as une affaire, qu'est-ce que tu fais? Tu joins entre les deux salats. Tu joins Dhuhr avec l'Asr. Ça veut dire qu'ils se font, ils ont un temps où les deux peuvent se faire en même temps. C'est pour ça, Ishtarikan, elle se regroupe en une salat. C'est pour ça que si elle se purifie en salat al-Asr, ça veut dire qu'elle doit faire aussi le Dhuhr. si elle purifie Salat al-Isha, elle fait aussi le Maghrib. Pourquoi? Parce que le délit, c'est ce que je viens de dire, et c'est aussi parce que la plupart des salafs ont dit cela. La plupart des salafs ont dit cela. C'est pour ça que quand on a demandé à Ahmed ibn Hanbal, on lui a dit, yani, est-ce qu'elle fait seulement le Asr ou bien elle fait le Dhuhr avec lui? Il a dit, elle fait les deux. Il a dit, elle fait les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, وَعَامَّةُ التَّبِعِينَ يَقُولُونَ بِهَدَ الْقَوْلِ إِلَّا الْحَسَنُ وَحْدَهُ. Il a dit, la plupart des tabi'in, les fils des compagnons, la plupart, c'est leur fatwa. Ils disent, elle doit faire les deux salats. Il a dit, illa al-Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, rahimahullah, disait non. Elle fait seulement l'Asr. Et dans le deuxième cas, elle fait seulement l'Isha, comme a dit Cheikh bin Uthaymin, alayhi rahmatullah. Donc, inshallah ta'ala, c'est plus prudent. C'est plus prudent pour une femme qui voit qu'elle est pure pendant salat l'Isha, elle fait en même temps salat al-Maghrib. Après s'être lavé, il est plus prudent pour une femme qui s'est purifiée après salat al-Asr de faire aussi salat al-Dhuhr, parce que les deux salats ont le même temps et parce qu'elles se joignent. Voilà, yani l'avis que j'ai choisi, mais ça ne veut pas dire que mon avis, yani, c'est plus sûr. Hein. Ça c'est là mon avis, que si ma femme me demande, je lui dis voilà ce que tu vas faire. Maintenant, autre chose, je voudrais dire autre chose. Et maintenant le contraire. Wa idha habat ba'da dukhul al-waqt. Maintenant, on va prendre le contraire. Une femme était pure toute la journée. Elle était pure toute la journée. Maintenant, elle a entendu la prière du Dhuhr. Elle a entendu le mu'adhan qui fait l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est le Dhuhr. Il est par exemple 12h30 ou là je ne sais pas combien ça salat al-Dhuhr en France. Maintenant, c'est salat al-Dhuhr. Donc, elle vient de se purifier maintenant. Pardon, c'est pas elle vient de se purifier. Elle était pure et maintenant, quand c'est salat al-Dhuhr, Elle vient d'avoir les monstres, c'est le contraire. Naam, elle était toute la journée pure. Quand c'est salat al-Dhuhr, il est 2h ou 1h de l'après-midi, 13h, elle voit qu'elle a les règles et qu'elle n'a pas fait la prière. Pourquoi? Elle s'est dit, je vais la faire maintenant, je termine la douara qui est en train d'être cuite. Hein. Je la termine, je donne à manger aux enfants, je vais faire la prière. Et maintenant, elle veut la faire et voilà qu'elle trouve qu'elle a les monstres. Est-ce que dans ce cas, la prochaine fois, quand elle va se purifier, la prochaine fois, ça veut dire dans une semaine, elle va se purifier. Est-ce qu'elle va rattraper la salat du Dhuhr qu'elle n'a pas faite maintenant, ou bien elle ne va pas la rattraper? Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, il a dit, elle ne doit pas la rattraper. Elle ne doit pas la rattraper. Il a dit pourquoi? Il a dit, lam tuqassir. Il a dit, c'est quoi sa faute? Elle n'a pas de faute, elle n'a pas de péché. Elle a dit, je vais la faire en 5 minutes, et c'est possible. Moi, quand j'entends la prière du Dhuhr, si je vais pas à la mosquée, j'ai une excuse. Je suis à la maison, j'ai une excuse. Je suis pas obligé de la faire quand il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je peux la faire après 20 minutes, après 25, après une demi-heure, après 35 minutes. Donc, maintenant, elle voit qu'elle a les règles. C'est quoi, où est son péché? Est-ce qu'elle a fait un péché? Elle n'a pas fait un péché. Cheikh Islam a dit, donc celle-là, c'est pas la peine, quand elle sera purifiée, de faire quoi? De rattraper la salat. Cheikh bin Uthaymin, l'Ayahmou, a dit, elle l'a refait. Il a dit, elle la rattrape par prudence. Subhanallah al-Azim, Cheikh bin Uthaymin, dans le premier cas, il a dit le contraire, ici, il a dit le contraire de l'autre. Ici, il n'a pas dit, ici, il a dit, il vaut mieux qu'elle prenne, yani avec la prudence, c'est-à-dire qu'elle la fasse. Dans le premier cas, il a dit, elle prend pas avec la prudence. Il a dit, c'est pas la peine qu'elle fasse deux salats. Donc, je répète pour ce cas, une femme qui est pure, ensuite quand le moment de la salat vient, elle se trouve avec les monstres. Par exemple, salat al-Asr. Est-ce que, quand elle va se purifier, elle va rattraper la salat al-Asr, elle dit, ou elle la rattrape pas? Cheikh l'Islam a dit, elle la rattrape pas, elle n'a fait aucun péché. Cheikh ibn Uthaymin a dit, elle la rattrape par prudence. C'est tout. Il n'y a pas un délit, un effort. Par prudence. On ne sait jamais. Elle dit, je vais faire cette prière. Voilà. Autre chose. Bon, ça, c'est pas dans le livre. C'est des choses que j'ai notées comme ça. Une femme, on est en plein Ramadan. Une femme s'est réveillée le matin. Elle sait qu'elle a les monstres. Ensuite, à 11h de la journée, par exemple, ou à 10h, ou à midi, elle voit qu'elle s'est purifiée. Elle voit le liquide blanc, qui est le délil que les monstres sont terminés. Maintenant, bien sûr, il faut qu'elle se lave pour faire la salat. Ça, il n'y a pas de khilaf, inshallah. Mais, doit-elle faire le siyam ce jour-là ou elle ne fait pas? Doit-elle faire le siyam, c'est-à-dire arrêter de manger et commencer à faire le siyam ce jour-là ou là elle ne fait pas? Ici, les ulama, bien sûr, ont beaucoup divergé. Beaucoup divergé. Beaucoup, beaucoup disent que à partir du moment où elle a vu qu'elle n'a plus de sang, elle doit se laver et bien sûr faire la prière et en même temps commencer à jeûner. Et commencer à jeûner. Bien sûr, ils ont un hadith de Ashura, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit qu'il était midi ou 11h, il leur a dit aujourd'hui c'est le jour d'Ashura, ils ont commencé à faire le jeûne. Ils ont dit voilà un délit, ils ont commencé à faire le jeûne à 11h. Celui-là, c'est la même chose ici. Celle-là, elle a vu sa purification à 11h. Elle commence le jeûne à 11h, donc. Et ce qui dit, elle commence comme ça, à 11h, ou là, à 10h, après s'être lavée, elle commence. Yani, ils ont encore, diversifié. Est-ce que, après le ramadan, elle rattrape ce jour, parce qu'elle n'a fait que la moitié. Elle a commencé à 10h, même si elle commence à 9h du matin. C'est pas un jour complet. Est-ce qu'elle rattrape ou elle rattrape pas? Le plus juste pour ceux qui ont dit, je dis bien pour ceux qui ont dit, elle doit faire le jeûne, le plus juste, inshallah ta'ala, c'est qu'elle ne rattrape pas. Et c'est ce qu'a choisi le Cheikh Mohamed Firkous, hafidhahullah. Il a dit, elle doit commencer le jeûne et elle ne rattrape pas, inshallah ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen a choisi autre chose. Et cette chose, j'ai lu ces dalils, j'ai été convaincu. Il a dit quoi? Il a dit celle-là qui se purifie en pleine journée continue à manger et ne fait pas le jeûne. Et si elle le fait, il n'est pas valable. Elle a dit et elle rattrapera un jour après. Donc, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est que quoi? C'est qu'une femme, en plein ramadan, si elle a classe le matin, elle a eu le sang, après le fajr, après salat le fajr, elle ne peut plus faire le ramadan ce jour-là, même si elle se purifie une demi-heure après salat al-fajr. Il dit, elle peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pour qu'une femme ou un homme puisse faire le jeûne et qu'il soit accepté, il faut qu'il commence avec le fajr. Il commence pas une heure après ou les deux heures après. Naam. Il a dit, et il a dit, il faut faire la différence entre tajaddud al-wajib et raf al-mani'a. Ici, il y a un empêchement qui a été levé. Elle avait le sang, ensuite cet empêchement a été levé. Celle-là, elle ne peut pas faire. Mais quand il y a tajdid wajib, et quand il y a quelque chose de nouveau, c'est nouveau, celui-là, il doit faire le siyam. Je donne un exemple, un kafir, en plein ramadan, à midi, il est rentré en islam. À midi, il a dit, shahadun la ilaha illallah, shahadun muhammad abduhu wa rasuluhu. Celui-là, à midi, on lui dit, tu fais le jeûne ou le tu fais pas? La khlas, puisque tu as mangé le matin, termine et mange. Celui-là, on lui dit, tu commences à faire le jeûne. Pourquoi? C'est pas la même chose entre toi et la femme qui a les menstrues. Pourquoi? La femme qui a les menstrues, elle les avait et elle pouvait pas faire le jeûne. Maintenant, elle avait un empêchement. L'empêchement est parti. L'empêchement est parti. Ça ne change rien. L'empêchement est parti, ça ne change rien. Elle fera un autre jour. Mais toi, qui étais kafir, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Je dis wajib, c'est quelque chose de nouveau. Donc à partir de ce moment, tu commences à faire le jeûne. À midi ou là, tu commences, tu fais l'intention dans ton cœur, tu commences à faire le jeûne. Et ce n'est pas comme j'ai dit tout à l'heure à Ashura. Ashura, il ne savait pas, c'était nouveau. Alors le prophète Islam, vers 10h ou là, il leur a dit, aujourd'hui c'est Ashura, on fait le siyam. Ils ont fait le siyam, ils ont commencé vers 10h. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est comme ça, qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, la règle, il a dit, quand il y a un empêchement, l'empêchement s'en va, on continue. C'est pas la peine de faire le jeûne. Comme les menstrues, on avait les menstrues sont partis, on continue à manger. Mais quand c'est quelque chose de nouveau, quelqu'un rentre en islam, ou là, quelqu'un devient pubère, par exemple, quelqu'un, il devient pubère, par exemple, à 14h. Il n'était pas pubère, une fille à 14h pour la première fois, elle a eu les menstrues. Bon, celle-là, les menstrues, elle ne peut pas. Disons, à 14 heures, une fille ou là quelqu'un, un garçon est devenu pubère. Il a vu que là, il avait les poils ou là, ça veut dire il est devenu, ou là il a eu 15 ans. Il a eu 15 ans à 14 heures. Celui-là, à 14 heures, il commence à quoi? Il commence à jeûner. Pourquoi? C'est un hukm djadid pour lui. C'est quelque chose de nouveau pour lui, donc il doit l'appliquer. Tandis que la femme, non, c'est pas nouveau pour elle. Elle ne peut pas faire le Qur'an que sauf si elle commence à, après le fajr. Ça, c'est comme j'ai dit, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. J'ai dit qu'il y en a d'autres, il y a d'autres ulamas qui disent que une femme, bien sûr, quand elle se purifie, elle commence. Si elle se purifie à 10 heures, là, elle va se laver, elle commence à faire le jeûne. Et la dernière des choses qui reste, la dernière des choses qui reste, non, il dit la dernière, mais quand il y a des choses là, faut que j'aille très vite. Non, la règle c'est que une femme qui a la grossesse n'a pas de menstrues. Non, une femme qui a la grossesse, s'il y a du sang qui coule, ce sang c'est un dem fesed, c'est pas le don des menstrues. Chaque femme qui a la grossesse et elle voit du sang qui coule de temps en temps, elle essuie ce sang et elle fait la prière. Elle fait la prière. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter de faire la prière? Quand le sang qui va couler d'elle est suivi immédiatement par l'accouchement. Naam. Quand elle commence à avoir des crispements dans le ventre et des contractions et des maux dans le dos, et elle commence là à sentir le sang maintenant qui commence à gicler, et bien sûr, il ne va pas s'arrêter jusqu'à l'accouchement, c'est-à-dire il va commencer à couler comme ça 2 jours ou là 3 jours avant l'accouchement, celle-là, elle arrête, khalas. Maintenant, je suis en période d'accouchement. Mais pendant le 6e mois, le 5e mois, le 7e mois, le 8e mois, tout le sang qui coule, il n'a rien à voir avec les lochis ou là avec les menstrues. Elle y suit, elle fait la prière. La même chose, pour la femme qui avait, par exemple, avait un bébé dans le ventre, on lui a fait une césarienne. Quand on lui enlève le bébé du ventre, l'Albani a dit, s'il n'y a aucun sang qui coule après avoir extrait le bébé du ventre, il n'y a aucun sang qui coule, c'est-à-dire de l'endroit où sort le bébé, elle n'a rien, elle n'a ni lochi, ni rien. Elle fait la prière. Mais si quand on enlève ce bébé, il y a du sang qui va couler par en bas, sûrement qu'il va couler, dans ce cas, elle est en période de lochi, elle doit rester jusqu'à la purification. Mais quand une femme, avant la grossesse, elle a un sang qui coule de temps en temps, ce sang-là, elle doit dire que c'est du sang pur, c'est pas du sang de lochi ni de menstrues. Inch'Allah ta'ala, c'est bien compris. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont enceintes, elles ne savent pas quand est-ce qu'elles s'arrêtent. Tu t'arrêtes à la dernière minute, quand le sang ne s'arrête plus de couler. Quand il reste 1 ou 2 jours ou 3 jours, tu as les contractions, tu as les crispements, etc. Là, tu t'arrêtes. Mais s'ils sont normaux, qu'ils coulent pendant le 5e mois, 6e, 7e, tu y suis seulement et tu fais la prière. Naam. Une femme qui a les menstrues ou bien là, les louchis, elle peut se laver quand elle va faire, par exemple, l'ihram. Elle va faire une umrah ou la hujja. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave et elle dit normalement, le bayk Allahumma umrah. Normalement, elle se lave, même en ayant les menstrues et les louchis. Elle se lave et elle fait l'ihram. Et elle fait tout, elle fait pas seulement le tawaf. Le tawaf, elle tourne pas autour de la Kaaba. Elle peut faire toute autre chose. Sauf, tourner autour de la Kaaba. Elle fait Safa ou Marwa, elle va à Minan, elle va à Arafa, elle va à tous les endroits. Elle jette les cailloux, elle fait toute chose. Elle fait pas seulement une chose. Elle tourne pas autour de la Kaaba, sauf dans le cas que j'ai cité la fois passée. Ensuite, autre chose, ici il a dit, la ba'sa, an tashrab al mar'atu al ha'idu dawa'an yaqta'u anha al hayd, idha lam yakun yadurru biha, wa yahsunu biha istishara tabib muslima mukhtasa fi hadha al amr. Il a dit, il est permis à une femme, celle qui a al hayd, celle qui a les menstrues, de boire des médicaments pour couper les menstrues, par exemple pour faire le hajj, etc. Et certaines femmes demandent aussi pour faire le jeûne, le ramadan. Il est permis, il a dit, à condition que ça fasse pas mal. C'est pour ça qu'il a dit, de préférence, elle demande à un docteur, une femme, qui est musulman, elle demande à un docteur qui est musulman, elle lui demande son avis. Il dit toi, si elle dit, docteur c'est une femme, si elle dit toi, tu peux prendre les, ou ça s'appelle les pilules, ça te fait pas mal, elle peut les prendre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit de préférence, elle les prend pas. Il a dit maintenant, j'ai des taqarir, yani on m'a fait des rapports pour prouver que les pilules font vraiment mal à la femme. Mais comme j'ai dit, si elle les prend yani, une fois dans sa vie ou là, comme ça pour aller au Hajj ou là, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Là, autre chose, il est permis à la femme, quand elle a les menstrues, par exemple, le même les logis, d'aller salat al-Eid. D'aller quand il y a salat al-Eid. Quand c'est pas dans la mosquée, quand il y a dans un grand musalla, comme ça, par exemple, dans un stade où là, ils vont faire la prière, elle va avec eux pour écouter le dars et elle se met un peu loin des femmes qui font la prière. Elle se met un peu loin pour ne pas les gêner et elle reste là-bas et elle écoute le dars. Elle reste spécialement avec celles qui ne font pas la prière. Et il est bien sûr en islam, il n'y a pas de problème quand une femme a les logis ou bien quand une femme a les menstrues de rester avec elle et de manger avec elle et même de dormir avec elle. Dormir avec elle, il n'y a aucun problème, il faut seulement ne pas faire le rapport avec elle. An Aisha radiallahu ta'ala anha, qalat kuntu ashrabu ana ahaid. Aisha radiallahu ta'ala anha disait, je buvais de l'eau alors que j'étais en plein menstrue. Ensuite je donnais le verre ou bien la tasse, je la donnais au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa bouche à l'endroit où Aïcha radiallahu ta'ala mettait sa bouche, yani pour lui montrer qu'il l'aimait, etc. Alors qu'elle était en menstrue, en plein menstrue. J'avais dit que les juifs quand leur femme avait les menstrues, là ils la faisaient sortir de la maison. Je sais pas où elle va chez les voisins ou là chez la famille, je sais pas où elle reste. Et il restait pas avec elle. Et j'avais dit que les chrétiens, par contre, faisaient le rapport, cohabitent leur femme, avec quoi? En plein menstrue. Pourquoi ils sont très près de la souillure? Ils sont très près de la souillure, ma'adallah. Ensuite, elle a dit, wa ata'arraqu al'arqa wa ana ha'id. Elle a dit, je mangeais aussi de la viande. Quand on prend un os, on le met dans la bouche et on commence à tirer, et on mange la viande. Il ne reste qu'un petit peu de viande sur l'os. Elle a dit, alors je le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fayada'u fiha 'ala mawdi'i fi. Et il choisissait aussi l'endroit où j'avais yani mangé l'os, où j'avais yani na'z, et il mangeait exactement de l'endroit où je mangeais sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait quelque chose qui nous paraît banal. C'est quelque chose qui te paraît banal. Mais il y a un homme qui fait cela devant sa femme, c'est vraiment un délit que celui-là aime vraiment sa femme, qu'il l'estime et qu'il a beaucoup d'estime pour elle. D'ailleurs, la ya'afouha, elle est en plein menstru et il mange et il boit exactement à l'endroit où elle a bu. Beaucoup de gens, ne connaissent pas, ils ne font pas ces choses comme ça, bien sûr, qui paraissent futiles, mais qui sont un grand facteur pour agrandir l'amour entre le couple. Qal al-ijhab, l'avortement. Al-ijhab, il parle de l'avortement. Sawa'un kana qabla takhalluq al-janin aw ba'dahu, fa innahu yu'addu nifasan. Il a dit, quand une femme avorte, même si c'est avant la formation de l'embryon ou après, il a dit, c'est toujours quoi? Il a dit, c'est toujours yani, c'est des louchis. C'est toujours, elle est dans les louchis. Ça, c'est l'avis de l'Aouaïcha. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit non. A dit, quand une femme avorte, la première des choses qu'on doit voir, on va voir qu'est-ce qu'elle a avorté. Et je crois que ça, ceci, Inch'Allah, c'est l'avis le plus sûr, le plus juste. On prend celui de Cheikh Ibn Uthaymeen. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand une femme avorte, on va voir qu'est-ce qu'elle a avorté. Si la chose qu'elle a avorté a pris la forme humaine, il y a une tête, il y a des mains, il y a deux jambes, deux pieds. Celle-là, elle doit dire que je suis en logis. Elle doit dire que je suis en période de logis, nifes. Elle doit arrêter jusqu'à ce qu'elle se purifie. Mais, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si une femme avorte, et c'est comme ça, il y a un morceau de viande comme ça, qui n'a pas de forme, l'embryon ne s'est pas formé, il a dit, elle doit faire la prière. elle s'essuie, elle se lave, elle s'essuie, même si elle se lave pas, elle se lave pas, mais elle s'essuie, pourquoi? À cause du sang qui coule, et elle doit faire la prière. Il a dit, elle doit faire la prière, elle doit jeûner. Pourquoi? Parce que l'embryon ne s'est pas formé. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, pour qu'on sache si l'embryon s'est formé ou s'est pas formé, au moins, yani, le moindre temps écoulé, c'est 81 jours. Après 81 jours, si elle avorte, c'est des lochers. Moins de 81 jours, par exemple un mois ou là, 60 jours, 2 mois ou là, il a dit si elle avorte, ce n'est pas des lochers. Elle doit faire la prière. Elle doit se laver et elle doit faire la prière. Ensuite, il a dit, إذا لم ترى المرأة في أيامها الأخيرة من الحيض وقبل طهرها آثار من الدم ولم تلحظ القصة البيضاء فهي حيض مدام في عدد. Il a dit, si une femme qui a l'habitude, je l'ai dit mille fois, ça je le répète, mais jusqu'à ce qu'il s'ancre dans la tête ou là dans le cœur, si une femme a l'habitude de voir les pertes blanches dans les, après les menstrues, ensuite il a dit le sang s'est coupé avant les pertes blanches, le sang s'est coupé un jour ou là deux jours, il a dit on doit dire qu'elle est dans les menstrues. Elle doit pas se dire khlas, puisque le sang il n'y a pas, donc je vais me laver. J'ai dit, tu te laves pas jusqu'à ce que tu vois les pertes blanches. Même si un jour ou deux jours il n'y a pas de sang, ça ne fait rien. C'est pas, tu regardes pas seulement la coupure du sang. Regarde tes jours, tu es dans la période des menstrues. Donc pour celle qui a les pertes blanches, c'est pas la peine qu'elle croit qu'elle peut faire la prière là, jusqu'à ce qu'elle voit les pertes blanches. إذا شعرت المرأة بألم العادة. Maintenant, une femme n'a pas les menstrues, elle était pure, et elle a senti que les menstrues vont venir. Elle a senti les premiers maux, les crispations, etc. Elle commence à sentir. وَلَمْ تَرَى دَمًا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. Ensuite, c'est bientôt غُرُوبِ الشَّمْسِ. Yani, c'est bientôt le coucher du soleil, et elle n'a pas encore vu de sang. Elle n'a pas encore vu. Elle avait bien des crispations, je l'ai dit tout à l'heure, elle a des contractions aussi, ça lui fait mal au ventre, mais elle n'a pas vu de sang. Maintenant, le soleil s'est couché. فإنها, il a dit, تتم صومها وتؤدي صلاتها. C'est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle termine sa journée, yani, son jeûne, elle le termine si on est pendant le ramadan, et elle fait sa salat. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle voit le sang. Tant qu'elle ne voit pas le sang, les crispations, et ce qu'elle a dans le cœur, celle-là dans le ventre, les maux n'ont rien à voir avec yani, on fait pas la salat ou là on coupe le jeûne. Non, ça c'est une règle. C'est une règle. Apprenez la barakallahu fikoum. Une femme qui sent les maux, des règles qui vont venir, elle ne doit pas couper. Elle ne dit pas khlas, donc je coupe le siyam. Ou bien je vais pas faire la prière. Non, tu fais la prière, tu continues à jeûner aussi jusqu'à ce que tu vois le sang. C'est seulement le sang qui est le délit des menstrues et non pas les crispations qu'il y a. C'est seulement le sang, lui-même. On se base sur le sang, on ne se base pas sur les mots qu'on a. Non. Autre chose, il reste 3 ou 4 choses, c'est tout. Inch'Allah, terminé. Il reste 3 ou 4 choses. Je sais que vous avez entendu beaucoup et ça risque de tartalet, ça risque que les choses se mélangent, mais moi chaque chose je la répète 4-5 fois, chaque chose je la répète 4-5 fois pour que inshallah ta'ala ça se mélange pas. Et le prochain dars inshallah ta'ala, je ferai comme ça des questions avant le dars qui sera inshallah ta'ala comme une révision. Maintenant il a dit إذا نزلت نقاط يسيرة من الدم من المرأة طوال الشهر. Maintenant une femme pendant tout le mois, il y a des gouttes, il y a des points comme ça qui yani, sont dans ses vêtements intimes. C'est plein de taches comme ça, petites taches comme des points et qui ne s'arrêtent pas. Tout un mois. Et elle n'a pas eu les menstrues. Comment qu'elle va faire celle-là? Un mois, le sang n'a pas coulé comme il coule, yani, noir, etc. Il n'a pas coulé. Mais ses vêtements intimes sont pleins de petits points. Le mois, c'est comme ça. Il a dit, فلا شك أنها مرت في عادة من الحيض. Il a dit, celle-là, من غير شك, يعني sans doute, elle a déjà dépassé, elle a passé sa période de menstrues. Parce que chaque femme doit avoir des menstrues pendant un mois. pendant un mois, elle doit avoir au moins une fois les menstrues. Donc celle-là, elle les a sûrement, mais le sang n'a pas coulé, c'est tout. Il a dit sauf si elle est hamil, sauf si elle est enceinte. Maintenant, elle va voir si elle est enceinte ou pas. Maintenant, si elle n'est pas enceinte, si elle est enceinte, il n'y a pas de problème. Maintenant, si elle est enceinte, maintenant, si elle a l'habitude, par exemple, chaque fois c'est ses règles, c'est 6 jours, ou là chaque fois c'est 7 jours, à partir de telle semaine, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, elle va rester une semaine ou là, l'année, sans faire la prière. Tout ce qui est en salat, au siyam, fil ayam lati, tuqaddiruha annahiya ayam al-hayd. Donc, une femme qui, tout le mois, le sang hada coule goutte par goutte, il ne s'arrête pas, et elle n'est pas enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va choisir une semaine pour quoi? Pour arrêter, ne pas faire la prière et le jeûne. Pendant une semaine, c'est tout, et les 23 jours autres, elle doit faire la prière et faire le jeûne. Comment qu'elle choisit cette semaine? Elle l'a choisi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'après ses règles, d'après ses habitudes. Elle se dit, moi, d'habitude, j'avais des menstrues, par exemple, la dernière semaine. Donc, elle laisse la dernière semaine, elle fait pas la prière et elle fait pas. C'est d'après, donc, ça change d'après les habitudes de la femme. Elle a dit maintenant si elle s'est purifiée, elle a vu le liquide blanc, ensuite elle a vu une couleur rouge ou bien jaune, après le liquide blanc, il a dit elle est pure la femme. Elle a dit istihada, c'est métrorragie, c'est tout. Pourquoi? Elle a vu le liquide blanc, elle a vu le liquide rouge ou la jaune après le liquide blanc. Après le liquide blanc, le liquide rouge et jaune ne comptent pas. Après le liquide blanc, le liquide rouge et jaune ne comptent pas. Et la même chose avant les règles. Le liquide rouge et jaune avant les règles ne compte pas, sauf s'il est suivi avec les contractions et les règles, s'il est suivi directement. Il a dit, si la femme est enceinte, ensuite on lui a fait une opération, et l'enfant, on l'a fait sortir, une femme est enceinte, maintenant elle a un cas grave ou la machasse, on lui a fait extraire l'enfant sans que le sang ait coulé. Le sang n'a pas coulé de l'endroit d'où sort l'enfant. L'enfant, le sang n'a pas coulé. Il a dit, فَإِنَّهَا لَا تَمْضِي عَلِيَا أَحْكَمِ النِّفَاسِ وَلَا تُعَدُّ النُّفَاسَ. Il a dit, cette femme, elle n'a pas les louchis, c'est pas la peine qu'elle reste comme reste une femme après l'accouchement. Pourquoi? Parce que le sang n'a pas coulé de l'endroit d'où sort le bébé. C'est celle-là. Yani la règle pour la césarienne. La règle de la césarienne, c'est que quand on enlève le bébé, on regarde. Si après l'avoir enlevé, le sang a coulé des parties intimes d'où sort le bébé, elle reste jusqu'à ce qu'elle se purifie. S'il n'y a aucun sang qui coule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est pure et c'est pas la peine qu'elle reste les jours. Hein, donc c'est pas la peine qu'elle reste les jours. Elle commence yani, à faire la prière directement. Il a aussi le hamil bi hadith. Maintenant, si une femme est enceinte, elle a par exemple fait un accident, ou là, quelqu'un l'a frappé, ou là, et le bébé est tombé. Moussa ibn, ensuite, il y a un sang, beaucoup de sang qui coule, il a dit, ce sang, ce n'est pas le sang des louchis. Ce sang, c'est le sang de la veine saignante. Naam. Le sang qui coule avant, yani le temps pendant lequel le bébé naît, ne s'appelle pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ne s'appelle pas le sang des louchis. J'ai dit tout à l'heure, une femme qui est enceinte, qui a le sang qui coule, ce sang est pur, il n'a rien à voir avec les louchis. Les louchis commencent, quand elles commencent à avoir des crispations, on bat des maux dans le dos, etc. Et ensuite, il y a le bébé qui sort un jour ou deux jours après. Tout ce sang, les quatre jours à dos, c'est le sang des louchis. Mais le sang qui vient le sixième mois, le septième mois, il coule, ça n'a rien à voir avec les louchis. Maintenant, c'est la même chose quand une femme est enceinte, cinquième mois, sixième mois, la qadar Allah, il lui arrive un accident où là, et le bébé est avorté. Ce sang qui a coulé, ce n'est pas le sang des louchis. Elle doit faire la prière et jeûner normalement. Inch'Allah, préparez vos questions. Subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Nestaghfiruka inch'Allah ba'da 10 daqa'iq. Assalamu alaykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, commence Allah Ta'ala par la première question. Avant cela, il y a quelqu'un, il y a je ne sais pas, peut-être une sœur, je ne sais pas. De toute façon, il y a un groupe qui m'ont posé des questions sur le Hajj. Ils m'ont posé 5 ou 6 questions sur le Hajj. Maintenant, je ne sais pas exactement qui m'a posé ces questions. Si ces personnes sont là, car ils vont faire le Hajj, etc., ou que je leur réponde en direct comme ça. Si ces personnes sont là, ou que je leur réponde, Inch'Allah Ta'ala, directement si elles sont là. Autre chose, non. Je vais voir s'il y a mon TV. Non. On commence Allah par les questions qui ont rapport avec le groupe d'Ilmillah Azzawajal. Avec le cours d'Ilmillah Azzawajal. Autre chose avant d'oublier. Et à chaque fois, je change, mais quand je change, c'est d'après Dorof, d'après les conditions, c'est pas moi qui veux changer. J'avais dit que les Dorof, c'était samedi. Samedi, c'était quoi? C'était Aqida, non. Samedi, Aqida. Ensuite, j'avais dit mardi, Fiqh, et mercredi, Hadith. Maintenant, je redis lundi, Fiqh, c'est pas mardi. Lundi, Fiqh, et mercredi, comme aujourd'hui, Hadith. Mercredi comme aujourd'hui, Hadith, Inch'Allah Ta'ala. Donc je répète samedi, Aqida, lundi, Fiqh, mercredi, Hadith, bi'illah Azzawajal. Ensuite, maintenant, j'ai parlé avec l'acte des repères de la Sunna. On a lundi, Fiqh, mercredi, Hadith, samedi, Aqida. Naam. J'ai parlé avec l'acte des repères de la Sunna. On a vu que c'était difficile. C'est difficile pour moi que je commence ici à 23h. C'est impossible pour moi que je commence à 23h le cours ici. Donc c'est pour ça que lui, Inch'Allah Ta'ala, il commence à 19h30 chez vous, c'est-à-dire ici 21h30. Et moi, je vais commencer seulement une demi-heure après lui, c'est-à-dire que lui et moi, on va faire pendant une heure ou une heure et demie en même temps. Ce n'est pas haram, parce qu'il n'y a pas une autre solution. Il ne reste qu'une solution, c'est que je ne fasse pas jusqu'au mois d'été. Donc ça, c'est aussi vous qui allez être les perdants. C'est pour ça, donc on va faire presque les deux en même temps. Et vous, Inch'Allah Ta'ala, ou bien vous êtes là, ou bien vous êtes là-bas, ou bien un peu ici, un peu là-bas, Allah ghalb, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je vais essayer de faire une demi-heure ou là, une heure moins un quart après eux, pour que ça soit pas le dars du début à la fin ensemble. Je vais essayer de retarder encore une demi-heure ou là, une heure moins un quart après eux. Et après, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes chez moi, vous êtes chez l'autre, les deux, Inch'Allah Ta'ala, c'est Sabillah, les deux, Inch'Allah, c'est Minhaj Salaf. Vous voyez, vous pouvez changer, vous voyez où, si vous avez un penchant. Par exemple, aujourd'hui, tu as le penchant pour le faire. Tu écoutes faire. Tu trouves l'autre qui te fait tafsir, tu dis j'ai un penchant pour tafsir. Tu vas au tafsir. Et comme ça, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ouvre les portes et on trouve une solution, bi'idhnillah Azza wa Jal. Hassan Abou Lias, tafadhal. Je commence Allah par les questions des cours. J'ai une question qui n'a pas relation avec le cours. On commence par les cours, Inch'Allah. Tafadhal. طيب أم سلامة أم سلامة تفضلي celui qui n'a pas je donne un conseil celui qui n'a pas de questions avec le cours c'est pas la peine qu'il pas avec le cours نعم tu attends un peu Hassan بارك الله فيك. Si que n'ont pas avec le cours, attendent un peu. C'est pas la peine qu'ils lèvent la main maintenant. Je leur conseille de descendre la main. Ensuite, quand je termine, je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, pour parler. Je vous donne, Inch'Allah, l'occasion pour poser vos questions. Celui qui n'a pas la question avec le cours, qu'il descende sa main, Inch'Allah Ta'ala. Oum Salama n'a rien dit, peut-être n'a pas avec le cours. Hilal, 406, 1406, t'as fait parler. Salam alaikum. La femme peut-elle accomplir des prières surrogatoires en étant métrorragie, ayant déjà des ablutions de la prière obligatoire, sans pour autant refaire les petites ablutions? Aussi, si la femme veut avancer, par exemple, la prière de Asr, alors de Dhuhr, elle est obligée de faire le rosh si on veut regrouper les prières. Naam, pour la première question, une femme peut faire seulement avec les, sans renouveler les ablutions, elle peut faire seulement la prière du Dhuhr et les prières surrogatoires qui ont rapport avec la salat elle-même. Naam, avec la salat elle-même. Par exemple, elle fait la prière du Dhuhr et avec les mêmes ablutions, elle fait deux rak'at après le Dhuhr. Mais elle peut pas faire, par exemple, salat al-Duha toute seule. Ensuite, avec salat al-Duha, elle va faire une autre salat al-Dhuhr. Elle peut pas. Il faut qu'elle fasse les prières qui ont rapport avec la salat. Ensuite, deuxième question, aussi la femme veut avancer, par exemple, la prière de Asr à l'heure de Dhuhr. C'est obligé de faire le rosh pour regrouper deux prières. J'avais dit que, une femme, quand elle veut regrouper les prières, elle doit les regrouper apparemment, c'est tout. C'est-à-dire, Jum'a Sori. Comment Jum'a Sori? C'est-à-dire, elle laisse la prière du Dhuhr jusqu'à qu'il reste seulement, par exemple, 2 ou 3 minutes pour l'Asr. Ensuite, quand elle rentre dans la prière du Dhuhr, yani juste elle termine, elle trouve que c'est l'Asr et elle commence le Asr. C'est pas yani par exemple, elle va faire par exemple le Dhuhr et le Asr par exemple au début du Dhuhr. Non, elle peut pas. Elle fait ce qu'on appelle Jam'a Sori. La même chose pour le Maghrib ou l'Aïcha. Elle laisse par exemple le Maghrib, elle le laisse jusqu'à ce que il est yani bientôt c'est l'Adhan de l'Aïcha. Ensuite quand elle fait les deux à la fois. En ce qui concerne Sahda, et dernière chose, est-ce qu'une femme a-t-elle le droit de shihadi? C'est Salama. Ah. La question, Drila n'est pas terminée. Est-ce obligé de faire le rousse si on veut regrouper les prières? Si on veut regrouper les prières. Un instant. Je ne suis pas très sûr. Il faut que je te rende, Inch'Allah Ta'ala, la réponse la prochaine fois. Je ne suis pas très sûr. Mais je sais que au moins, elle doit faire le wudu pour chaque prière. Au moins le wudu pour chaque prière. C'est pour ça que yani, ce dont je penche beaucoup, c'est qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle doit faire le wudu pour chaque prière. Et celle-là, elle va joindre entre deux prières. C'est pour ça que le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, Elle fait le rost, Inch'Allah Ta'ala. Mais, laisse-moi, Inch'Allah Ta'ala, pour être plus sûr, la prochaine fois, je te la dirai. Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. Par exemple, le Dhuhr, l'Asr, à l'heure de Dhuhr. À la fin du Dhuhr, non, pas au début. À la fin du Dhuhr, elle fait le Dhuhr et en même temps le Asr. Comme Salam a dit, Salam a dit, si j'ai bien compris, je connais une personne qui a des métrorragies tous les mois, après les règles. C'est dû au coup de fil shaitan. Naam, c'est dû au coup de pied de shaitan. Naam, exactement. C'est dû au coup de pied de shaitan. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit rester des jours si elle a l'habitude. Si elle a l'habitude, elle doit rester des jours. Si elle n'a pas l'habitude, elle regarde si elle peut différencier entre les deux sons. Si elle peut pas différencier, elle prend l'habitude de l'une de ses parents. Ensuite, dernière des choses. Est-ce que une femme a-t-elle le droit de prier avec le qamis du mari à la maison? Est-ce qu'elle a le droit de prier avec le qamis du mari à la maison? Si elle ne trouve rien, et qu'elle le met, Inch'Allah Ta'ala, elle peut, si elle ne trouve rien, mais de préférence, yani elle ne choisit pas d'exprès le mari, yani cela. Mais si elle ne trouve rien, elle peut faire avec celui de son mari. Parce que c'est quelque chose yani, de grand comme ça, yani, ressemble un peu au hijab. Il ressemble un peu au hijab. Mais de préférence, l'homme fait avec les atwab rijal et la femme avec thawb la femme. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. أم عثمان تفضلي. أم عثمان جات وتكست. أبو حسن 95 تفضل. أبو حسن 95 تفضل. جمال 38 تفضل. جمال 38 تفضل. J'ai pour habitude de prendre la pilule, ce qui fait que je suis bien réglé. Je n'ai pas pris ma pilule pendant un moment. Du coup, j'ai mes règles et demain, je pense, sera 15 jours. Que dois-je faire pour la prière? Merci beaucoup. Je répète, j'ai pour habitude de prendre la pilule, ce qui fait que je suis bien réglé. Je n'ai pas pris ma pilule pendant un moment. Du coup, j'ai mes règles et demain, je pense, ça fera 15 jours. Que dois-je faire pour la prière? Naam. Si les règles ont duré plus de 15 jours, demain, inshallah ta'ala, ça fera 15 jours. Demain, inshallah ta'ala, tu vas commencer à te laver et prier. Demain, inshallah ta'ala, tu commences à te laver. Ensuite, tu mets un vêtement. Inshallah ta'ala, tu commences à faire la prière. Parce que les ulama ont dit, on ne doit jamais dépasser 15 jours. Moitié du mois, on ne doit jamais. Et Inch'Allah, c'est le 16e jour, ça veut dire 15 jours de règle. Le 16e, Inch'Allah ta'ala, tu commences, yani, tu te laves et tu mets un vêtement et tu commences à prier. Certains ont dit le 15e, certains ont dit le 15e jour. Ils ont dit, de toute façon, ça ne doit jamais dépasser la moitié du mois, Inch'Allah ta'ala. Ah. Abu Hassan a dit, salam alaikum, salam alaikum. Voilà, ma mère, pendant le ramadan jeûne, alors elle a ses règles. Je lui dis, de manger, elle ne veut pas. Quel est le jugement? Naam. Une femme qui jeûne pendant ses règles, c'est haram, bien sûr. C'est haram. Premièrement, elle ne veut pas prendre la ruqsa. Allah Azza wa Jalla lui a donné une ruqsa et elle ne veut pas prendre la ruqsa. Et deuxièmement, quand elle jeûne ou elle fait la prière, ce n'est pas accepté. Même, elle peut même avoir un ism. Elle peut même avoir des ism pour avoir, yani, transgresser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il y a le djihl. Il ne faut pas oublier l'ignorance. Il ne faut pas oublier certains ignorants qui, même lorsque tu lui dis, il ne veut pas prendre. Pourquoi? Il se dit, celui-là c'est un ignorant. Yani, comment je vais prendre? Toi tu n'es pas un alim. Surtout si tu dis à ta mère, ou là, elle ne va pas accepter. Elle va dire, toi où est-ce que tu as étudié? Toi où est-ce que tu as étudié? Etc. Celle-là, elle peut être ma'doura si elle a un genre de ta'wil. Avec le djihl qu'elle a, elle peut être ma'doura. Mais si yani, quelqu'un yuqim alayhi al-hujja, ensuite elle a le ithm. Elle a le ithm. C'est pour ça qu'il faut que tu lui fasses entendre cela par un alim. Hein, quelqu'un auquel elle fait confiance, il faut que ce soit lui qui lui dise. Quelqu'un auquel elle fait confiance. Elle dit, celui-là, il connaît le ilm, etc. Il faut que ce soit lui qui lui dise que ça, c'est interdit. Inch'Allah ta'ala. Naam. Suivant, Inch'Allah ta'ala. Jamal 38, tafaddal. Jamal 38. Salama 57. Salama 57, tafaddal. Vous avez dit que les pertes marrons qui viennent avant les règles, il ne faut pas prendre des règles quand il y a une coupure. Naam. Mais quand les pertes marrons viennent, par exemple, deux jours avant les règles, mais sans coupure avec les règles, est-ce qu'on doit les considérer comme les règles, barakallahu fik. Naam, on doit les considérer comme les règles. Voilà ce que je voulais dire. Naam, si les pertes marrants viennent et elles restent collées aux règles, ça veut dire on les considère comme c'est le début des règles. Naam, ce sont les débuts des règles. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de coupure. Ça a commencé par marrant, ensuite c'est devenu noir. Et c'est les règles. Ça veut dire que c'était le début. Mais si ça se coupe un jour ou là, ça veut dire non. C'était seulement dam fasad. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Um Rayhana tafaddali. Salam alaikum. Est-ce qu'une femme peut faire partie des deux cas de propreté, c'est-à-dire que tantôt elle a perte blanche, tantôt elle a période sèche? Et comment reconnaître la période sèche? Car vous avez dit que une nuit sans rien fait partie des règles. Alors, Naam. Justement, certaines femmes font tantôt partie de celle-là et partie de celle-là. C'est-à-dire mouchkila. Naam. C'est ça, mouchkila. Maintenant, quand elle sait que elle a les pertes blanches, elle n'y a pas de problème, elle attend les pertes blanches. L'autre, qui sait que, là, à chaque fois qu'elle devient, c'est sec, elle n'a plus rien. Elle dit, Inch'Allah ta'ala, khlas, ou si ce n'est plus rien. Maintenant, quand des fois, elle a, c'est sec, ensuite, après que ça soit sec, yani, ça arrive quelque chose. Ça arrive maintenant quelque chose de jaune ou là. Si, elle a l'habitude, que c'est sec, elle a l'habitude. Et elle sait que quand c'est sec, la plupart du temps, yani, elle se lave, etc. Celle-là aussi, elle ne doit pas compter. Elle ne doit pas compter la jauneur, la chose qui vient jaune ou là, après, ça soit devenu sec. Elle ne doit pas la compter. Pourquoi? Parce qu'une femme qui, d'habitude, a quelque chose de sec, elle sait qu'elle n'a pas les pertes blanches, elle dit, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ça c'est au milieu. Ça veut dire, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si elle va avoir les pertes blanches, donc elle doit les attendre. Si elle ne va pas les avoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, elle attend un peu, naam. Elle attend à peu près 24 heures pour être sûre. Pour être sûre que, inshallah ta'ala, ou bien elle va avoir les pertes blanches, ou bien rien ne va couler, et elle rattrape. Et elle rattrape les 24 heures qui sont passées. C'est un cas mouchkil, là, c'est un cas mouchkil, là. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Bint Hussein, tafaddali. Vous avez dit que lorsque le kafir rentre en islam, par exemple à 12 heures pendant le mois de ramadan, il doit commencer à jeûner d'après Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Naam, c'est ça le vrai. Mais doit-il rattraper les premiers jours de ramadan? Enfin, il ne rattrape pas les jours du ramadan. Parce que quoi? Parce que c'est à partir de ce jour-là qu'il est devenu musulman. C'est à partir de ce jour-là que on commence à lui compter les hasanats, etc. Donc ce qui est passé, il ne peut pas le rattraper parce qu'il était kafir. Il était kafir pendant les jours qui sont passés. C'est pour ça que dans le Qiyas Aks, on dit que si quelqu'un, par exemple, meurt le 20e jour du ramadan, par exemple, un musulman meurt le 20e jour du ramadan, on ne va pas yani, rattraper à sa place, ni jeûner à sa place les 10 jours qui restent. Yani, certains se trompent. Ils disent, mon père est mort le 25e jour du ramadan. Donc, il n'a pas fait 5 jours. Donc, 5 jours à dos, je vais nourrir 5 pauvres, ou là, je vais rattraper à sa place ou là. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a écrit que, ajaluhu intaha. Yani, son âge ou là est terminé, son moment est terminé, cela c'est des morts. C'est pas la peine qu'on rattrape à sa place. La même chose, Allah Azza wa Jalla a écrit que celui-là, c'est ce jour-là qu'il va rentrer en islam. Donc, les autres jours, il ne les rattrape pas, بإذن الله عز وجل. بنت هاشم تفضلي. فيك بارك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. À cause du régime, à cause d'un régime très strict, j'ai pas été en période de mensonge pendant un an. J'ai toujours fait salat, dois-je faire tauba, en sachant que tout est devenu normal? À présent, ça s'est passé environ 3 ans. Bon, à cause d'un régime strict, j'ai pas été en période de monstrueux. Pendant un an, j'ai toujours fait salat. Dois-je faire tawba en sachant plus de l'homme? Non. Dans ce cas, yani, pendant un an, il n'y avait pas de monstrueux. Dans ce cas, il fallait rester 6 ou 5 ou 6 ou 7 jours chaque mois sans faire la prière. Il fallait rester 5, 6 ou 7 jours à chaque fois sans faire la prière. Donc celui qui a fait exprès, il a dit non. Moi je fais exprès, je fais la prière, je m'en fous. Celui-là peut rentrer dans le hit. Et celui qui ne savait pas, là il avait peur, ou là il a fait par prudence, ou là, Inna Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim. Fa anti tastaghfir Allah subhanahu wa ta'ala. Tastaghfirin Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il fallait ne pas faire chaque mois. Non, tu savais pas. Non, tu savais pas. Est-ce que celui qui ne sait pas, est-ce que celui qui ne sait pas, Allah je lui pardonne ou ne lui pardonne pas? Ça aussi c'est une autre chose. Est-ce que celui qui ne sait pas, Allah je lui pardonne ou ne lui pardonne pas? C'est d'après les choses qu'il n'a pas su. Si ce sont des choses qu'il devait savoir qu'il n'a pas su, Allah Azza wa Jal, il y en a peu, le châtier demain. Mais si des choses qui le dépassent, il ne les a pas su, ou là ce sont des choses qui ne sont pas passées par sa tête, il n'a jamais pensé à ces choses. Celui-là, fa'inna Allah, de toute façon, dans tous les cas, astaghfirin Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah ghafurun rahim. Naam. Saifuddin, tafaddali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa khairatuh. Une femme qui n'arrive pas à déterminer la fin exacte, c'est monstrueux. Et ce dû au fait qu'elle n'ait pas de pertes blanches qui peuvent lui servir d'âme. Et qu'il arrive qu'un jour, elle n'a pas prié pendant toute une journée, encore ce mensonge n'est pas fini. Mais en fait, c'était bien la fin de celle-ci. Doit-elle rattraper ou passer sa latte ratée? En ce qui concerne premier souhait, une femme qui n'a pas de pertes blanches, j'ai dit qu'il n'a pas de pertes blanches, c'est difficile pour elle. Allah, alhamdoulilah, celles qui ont les pertes blanches, elles doivent dire alhamdoulilah. Elles doivent dire alhamdoulilah parce qu'avec les pertes blanches, elles ont le délit que les monstrues sont terminées. Donc celle-là, elle n'a pas prié toute une journée, on croit que c'est pas fini. Naam, pour celle-là, les ulama disent de préférence, elle rattrape. Naam, de préférence, elle rattrape les salats ratés. Pourquoi? Parce que elle s'est basée sur quelque chose. Ensuite, ça s'est montré que c'était autre chose. Les ulama ont dit, de préférence, par précaution, elle rattrape, inshallah ta'ala, sa salade de la journée qu'elle n'a pas faite. Pour l'avortement en islam, l'avortement, il a des cas, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Il dit quand c'est entre le premier jour et le 40e jour, quand on va faire un avortement entre un premier jour et le 40e jour, on doit le faire pour haja, yani pour besoin. Par exemple, le médecin dit qu'il faut le faire, sinon yani c'est pas bien pour sa santé ou la kaza, yani pour besoin. On ne fait pas comme ça yani en jouant. On doit le faire pour besoin, les haja. Il a dit ensuite, il y a entre le 40e jour et le 4e mois, c'est-à-dire où Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire du Islam, ici, il a dit que c'est entre quoi? C'est entre le 40e jour et le 4e mois, c'est-à-dire où l'embryon va être formé et il va y avoir l'âme, l'âme. Il a dit ici, on ne doit avorter que dans une darura. L'âme. Parce que, c'est un peu grave, c'est plus que le premier cas. Il a dit ici, quand on est dans l'obligation, darura, il a dit, à la condition quoi? À condition, j'ai dit le 4e mois, je voulais dire juste avant le 4e mois. Ça veut dire, n'a pas encore insufflé. Et juste, on est au 2e mois, 3e mois, 4e mois, presque le 4e mois, il va se terminer. où là il va commencer. Ici, il a dit, il faut que ça soit darura. Il a dit, mais après le quatrième mois, après que Allah Azzawajal ait insufflé, il envoie le l'ange qui dit, Bakarula Unta, etc. Et il insuffle l'âme à l'intérieur. Il a dit, et dans tous les cas, c'est haram. Il a dit, ici, dans tous les cas, c'est haram. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, quitte à ce que la femme meure, et c'est interdit d'avorter. Quitte à ce que la femme meure. Il a dit, sauf dans un seul cas, il lui est permis d'avorter. Après l'insufflement de l'âme, dans un seul cas, quel cas, on est sûr que le bébé va sortir vivant. On est sûr que le bébé, on va l'avorter, mais il va sortir vivant, il va vivre. Il a dit, mais l'avorter comme ça, il sort pour qu'il meure, pour que vive sa mère, il a dit, ça c'est interdit en islam, et elle a tué quelqu'un, et elle rentre dans le verset, وَمَنْ يُقْتِلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَأُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Pourquoi? Parce que Allah l'a insufflé, il y a une vie. Celui-là, il doit vivre comme la mère, comme sa mère veut vivre. Lui aussi, le bébé Hada, il veut vivre. Et Allah l'a créé pour qu'il vive. Alors maintenant, elle va le tuer à cause d'elle pour qu'elle vive. Alors là, ça veut dire qu'elle a fait quelque chose de vraiment grave. Yani, quand c'est notre premier jour et le 40e jour, il faut avoir des raisons plus ou moins valables. Entre le 40e jour et avant l'insufflement de l'âme, avant le 4e mois, il faut, yani, des raisons beaucoup plus valables. Yani, maladie, etc., elle peut le faire parce que on n'a pas encore insufflé l'âme. Mais il faut avoir des raisons assez valables. Mais après l'insufflement de l'âme, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, il est interdit dans tous les cas, sauf dans un cas si on sait qu'il va sortir vivant. Il a dit, quitte à ce que la mère meure et lui il vit. Il a dit, il n'y a pas de pourquoi elle vivrait-elle et lui il mourrait. Pourquoi il a dit? Il a dit, lui aussi il a le droit de vivre. Là, je l'ai créé pour qu'il vive. Alors c'est pour ça que je profiterai ici pour dire, se trompent beaucoup, surtout beaucoup de femmes se trompent, qui disent, on a fait ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, l'échographie. On a fait une échographie et le médecin nous a dit par exemple que celui-là, il peut pas vivre parce que il est déformé. Parce que celui-là, il est déformé, ou là, celui-là, il n'a pas de main, ou là, il n'a pas d'yeux, ou là, je ne sais pas quoi. Celui-là, s'il va vivre, il va vivre déformé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, la femme dit, alors on va faire ce qu'on appelle, on va faire un avortement. Pourquoi? Parce que le médecin a dit, celui-là, il ne peut pas vivre. Ça, c'est haram, haram, haram. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, c'est haram, haram. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a voulu de celui-là qu'il vive comme ça. Maintenant, il a dit, personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Le médecin a dit à peu près, celui-là, il ne va pas mourir. Mais il est possible qu'il vive 100 ans. Il est possible qu'il vive 100 ans et qu'il marche et il boive et qu'il se marie, qu'il fasse tout, malgré toutes les déformations qu'il a. Personne n'a le droit de le tuer. On le laisse, on fait accoucher la femme, on le laisse, yani, et on voit. S'il vit, alhamdoulilah, s'il ne vit pas et il meurt, on l'enterre. Voilà, mais c'est pas, on va avorter. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. تفضل سكي أميسة 78 تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. Je voudrais savoir par rapport à la femme qui a ses menstrues, peut-elle lire le Coran, c'est-à-dire le prendre, le réciter, ou peut-elle le prendre avec des gants? Barakallahu fikum. Non, elle peut pas lire le Coran en le touchant. Elle peut pas le lire en le prenant et en le touchant. Mais elle peut le réciter quand elle est dans Darura. Ça veut dire, par exemple, elle a peur de l'oublier. Ou bien c'est une enseignante. Ou là, celle-là, yani, il faut qu'elle récite certains versets parce que c'est son travail. Ou là, elle a l'habitude d'apprendre, maintenant elle a peur de l'oublier. Elle peut le réciter. Sinon, elle ne le récite même pas. Sinon, yani, elle n'est pas dans l'obligation là. C'est même pas la peine qu'elle lise le Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire seulement salam alaykum, il faisait le taïmoum. Seulement pour dire salam alaykum. Qu'en est-il du Coran? Quant à le toucher avec des gants, certains ont dit elle peut. Certains, comme Cheikh Mohamed Ben Brahim et les autres, alayhi wa rahmatullah, ont dit, il ne lui reste qu'une solution, si elle est dans la barora et elle doit le toucher, elle le touche ou bien avec des gants, ou bien avec un bâton, Ou bien quelqu'un lui ouvre le Coran. Elle fait venir son fils, c'est lui qui lui ouvre par exemple le Coran et elle lit avec ses yeux. Il lui ouvre le Coran, elle ne le touche pas et elle lit avec ses yeux. Allahu Azza wa Jal A'lam. Naam. Jabir 51, tafadhal. Une femme qui est enceinte, mais tous les mois elle a ses règles. Doit-elle faire la prière ou pas? Et peut-on porter plainte pour récupérer de l'argent volé par une banque ou alors c'est interdit qu'elle soit l'injustice subie? J'ai pas compris l'argent volé. Est-ce que c'est avec le DAF ou c'est une deuxième question? Ou là ça par rapport avec les règles? Une femme qui est enceinte, mais tous les mois elle a ses règles. Doit-elle faire la prière ou pas? Tous les mois elle a ses règles. Elle doit faire la prière. Jaber, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? C'est une deuxième question. Non. Une femme qui a les règles tous les mois, elle regarde. Est-ce qu'elle a une habitude? Si elle a une habitude, elle prend l'habitude. Elle regarde l'habitude. Si elle a l'habitude, 5-6 jours, elle reste 5-6 jours sans faire la prière. Si elle n'a pas l'habitude, comme j'ai dit, et qu'elle peut faire la différence. Elle peut faire la différence entre les deux sangs. Celui-là, il est noir. Celui-là, il est rouge. Quand il est noir, elle ne fait pas la prière. Si elle ne peut pas faire la différence et elle n'a pas l'habitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'habitude de sa sœur ou de sa mère. Et je sais que c'est une habitude. Naam, je te réponds en sachant que c'est une habitude. C'est une habitude pour elle de, yani, d'avoir des règles pendant tout le mois. Naam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit. C'est quoi son habitude des règles? Si elle a 5 jours ou 6 jours autrefois, avant d'être malade, si elle restait 5 ou 6 jours, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même chose. Chaque mois, elle reste 5 ou 6 jours ou 7 jours sans prier, d'après l'habitude qu'elle avait avant la maladie. Si elle n'a pas l'habitude, elle regarde le sang, si elle peut voir la différencier. Si elle ne peut pas différencier, elle prend l'habitude de sa mère ou de sa soeur. Inch'Allah ta'ala, c'est compris. Maintenant, peut-on porter plainte pour récupérer son argent volé par une banque ou alors c'est interdit qu'elle soit l'injustice subie? Je ne vois pas pourquoi on n'a pas le droit de porter plainte. Quand on nous vole de l'argent, je ne vois pas pourquoi on ne porte pas plainte. Je n'ai pas bien compris ta question. Quand on me vole mon argent, je dépose plainte. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas haram. On m'a volé mon argent, je dépose des plaintes. Non, où est le haram ici? Maintenant, si tu parles spécialement d'une banque, volé par une banque, quiconque me vole, je dépose une plainte contre lui. Quiconque me vole, je dépose une plainte contre lui si je veux. Naam. Maimouna, t'as pas parlé? Maimouna, t'as pas parlé? Je dirais encore une fois ma soeur Hilal 1406 m'avait posé la question. J'ai maintenant un peu réfléchi. J'ai dit que en principe elle peut pas faire, elle peut pas joindre entre deux salats avec le wudu seulement. En principe, hein, marche sur cela inchallah jusqu'à ce que je te donne yani, le plus sûr. Car le plus sûr, le hadith a dit yani, tu te laves, il a dit tu fais le rousl et tu joins. Donc on marche avec celui-là jusqu'à ce qu'inchallah je cherche notre preuve. Safiya, tafadli, peut-être Maimouna n'est pas là. Safiya, tafadli. Abouliès, aide-moi, je suis à Barakallahu fik. Bon, il y a personne qui est ici, je ne comprends pas pourquoi. Comme sa fille, elle t'a fait barrer. Il n'y a rien. Hein? ابو الياس تفضل. مش هي ابو الياس، الياس ابو انس. Peut-être qu'elles ne sont pas devant le micro. Je crois qu'elles ne sont pas devant le micro. Non. Si la femme a démenstrué pendant le ramadan et qu'après le salat danse, elle ne s'aime plus. Doit-elle jeûner après le roust et doit-elle prier d'or barakallahu fik cheikh? Si la femme a démenstrué pendant le ramadan et qu'après la salat danse, elle ne s'aime plus. Voilà. Elle avait démenstrué pendant sa danse, après sa danse, elle ne s'aime plus. Doit-elle jeûner après le roust et doit-elle prier d'or? Barakallahu fik. Maintenant, au lieu que ce soit moi qui réponde, je vais donner à quelqu'un, inshallah ta'ala, qui va répondre. Pour voir justement s'ils ont compris quand je faisais le dors ou là ils ont pas compris. Naam. Je vais donner à la sœur Hilal. Sœur Hilal, je vais lui dire de répondre. Je vais voir d'abord si elle est là. Bon, Malice, je choisis une autre parce que c'est quoi. Je choisis Om Zakaria. Om Zakaria, je te pose la question. D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, maintenant une femme a ses menstrues pendant le ramadan. Après Salat al-Dhahr, elle voit qu'elle s'est purifiée. Après Salat al-Dhahr, elle s'est purifiée. Celle-là, doit-elle jeûner après le roust? Elle va faire le roust, bien sûr. Elle a dit, doit-elle prier? Elle va prier, c'est sûr. Maintenant, elle va se laver. Maintenant, celle-là, est-ce qu'elle va jeûner ou elle va pas jeûner? Est-ce qu'elle va jeûner ou elle va pas jeûner? Bon, j'enlève le point rouge en Zakaria pour me répondre. Celle-là, est-ce qu'elle doit jeûner ou elle doit pas jeûner? Pour voir si vous avez compris ce que je disais tout à l'heure et si vous écoutiez aussi. Si vous écoutiez aussi ce que je disais. Comme Zakaria, je t'ai enlevé le point rouge. Réponds-moi, Inch'Allah. J'ai choisi comme ça, yani, tu es tombé toi, j'ai choisi une femme qui s'est purifiée après Salat al-Dhahr pendant le ramadan. Est-ce qu'elle va faire le ramadan ce jour-là ou elle ne fait pas? Qu'est-ce que j'ai, dis-moi, comme ça en général, dis-moi comme ça, yani, en général. Dis-moi comme ça pour que je sache seulement que vous suiviez, yani, le cours. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, c'est possible, j'ai choisi Om Zakaria, c'est possible qu'elle soit pas là avec nous, c'est possible. Donc moi je vais répondre inshallah ta'ala vite à cette question, vite. En ce qui concerne une femme qui se purifie des menstrues après Salat al-Dhahr en plein ramadan, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit elle continue à manger. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'il a dit c'est comme condition nécessaire pour une femme de jeûner, il faut qu'elle commence du matin, pas à 10h, ni à midi, ni à 14h. Elle dit premièrement. En ce qui concerne Salat al-Dhahr, si elle s'est purifiée après Salat al-Dhahr, c'est normal qu'elle fasse le Dhahr. Parce qu'elle s'est purifiée après Salat al-Dhahr. Donc, c'est obligé, bien sûr, qu'elle commence par la Salat où elle est. C'est-à-dire, elle fait le Dhahr bi-idhnillah azza wa jal. تفضل ان شاء الله بروشان كيستيون. الياس ابو انس تفضل. Moi c'est ma question. Hier matin j'ai fait des grandes. Non, hier question, pardon. Hier matin, j'ai fait les grandes ablutions rousses, car j'étais en état de Janaba. J'étais en état de Janaba. Mais quelques instants après avoir entamé le troisième lavage de mon bras gauche, lors de l'ablution, j'ai douté d'avoir bien passé sur une partie de mon bras gauche lors de mon deuxième lavage. Je suis donc revenu au deuxième lavage pour compléter ce que j'avais cru avoir manqué. Ensuite, j'ai refait le troisième lavage de mon bras gauche. Ensuite, j'ai terminé les ablutions jusqu'au pied pour fixer mes cheveux, etc. Jusqu'au lavage complet de mon corps. Est-ce que le fait d'être revenu au deuxième lavage de mon bras gauche pour compléter ce que j'avais vu a-t-il Donc, invalider ma purification. Non, il l'a pas. Il l'a pas invalidé. Non. Pourquoi? Parce que tu es revenu pour refaire, yani pour refaire ce que tu croyais qu'il manquait. Donc, tu es revenu pour faire une sunna. Tu as fait seulement deux. Tu as voulu faire le troisième, c'est-à-dire pour faire une sunna. Jamais, yani ton lavage est juste, inshallah ta'ala. Il n'a pas été annulé. Quand on oublie quelque chose et on revient vers cette chose, notre lavage n'est pas annulé. Et il n'est là à zéro. Non. Maya Tfadli, Maya 91. Salam alaikum wa rahmatullah. Pourquoi le shaitan donne un coup de pied dans la 21e? C'est une réponse à la question. Barakallahu fikum. Je ne connais pas une question très claire, mais je voudrais dire à mon frère ou à ma soeur que le shaitan, sa spécialité, c'est faire des problèmes. L'Azawajal a dit, inna shaitan alakum aduun, fattakhidu aduwa. Il a dit, le shaitan c'est un ennemi pour vous, prenez-le ennemi. Donc lui, la chose la meilleure que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est salat. C'est salat. Donc lui, il voudrait yani faire des problèmes pour la salat. Donc s'il fait éclater la 25e, ensuite il y a un grand problème pour la salat. Est-ce que je vais la faire? Est-ce que je vais pas la faire? Est-ce que j'ai les monsieur? Est-ce que je les ai pas? Et c'est le waswas qui commence. Donc la spécialité du shaitan, c'est quoi? C'est de faire les problèmes. Il dit premièrement. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Inna shaitan a yijri min bani adam majra ad-dam ». Il a dit « Inna shaitan, le shaitan court. » Dans l'être humain, comme court le sang, ça veut dire il court dans les veines. C'est un délire que il court dans les veines. Ça, yani, son endroit où il se trouve. Le shaitan court dans les veines comme court le sang. Et de temps en temps, il fait éclater certaines veines pour faire des problèmes aux gens, pour faire des problèmes aux femmes, comme il fait des problèmes à certains gens pour se suicider, fait à d'autres pour. Et comme ça. Wallahu subhanahu wa azzawajal, alam. Naam. Anas, non, Anas 3, Anas 3, ça s'en va. La sœur Safia a un problème, elle a posé sa question. Oui, Safia, j'ai pas vu sa question. Elle peut poser sa question, non, mais elle peut la poser. Elle peut la poser si elle veut, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Dois-je arrêter la prière donc pendant 6 jours chaque mois si nous avons l'air complètement déréglé, c'est-à-dire qu'elle vient un mois sur deux ou sur trois pour causer inconnu, bien même cela peut paraître après un choc émotionnel sur la femme. Non. La prière. Une femme qui est complètement déréglée, qui n'a plus de règles, etc. Sauf dans un cas, sauf si elle sait qu'elle est enceinte. Maintenant, si elle sait qu'elle n'est pas enceinte, il est obligé, elle dit c'est une règle, apprenez cette règle, barakallahu fikoum pour les femmes. Il est obligé, pour chaque femme, il est obligé qu'elle fasse au moins yani, 23 jours de prière par mois. Si elle n'est pas, yani, elle n'a pas d'autre, yani, quelque chose qui l'empêche. De toute façon, il n'y a rien qui l'empêche. En ce qui concerne les menstrues, il faut que chaque femme, pendant chaque mois, fasse la prière. Chaque mois. Même si elle a toutes les maladies du monde. Seulement, il ne faut pas qu'elle fasse yani les jours où elle ne faisait pas. Elle revient toujours à son habitude. Si elle se dit, je faisais pas, quand j'étais pas malade, etc., je faisais pas 6 jours par mois, donc elle reste 6 jours par mois, elle fait pas. Elle choisit les jours d'après l'habitude qu'elle avait autrefois. Si son habitude des règles venait les débuts de mois, elle prend 6 jours le début du mois. Si à la fin du mois, elle prend 6 jours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle fait sorte. Non, vous pouvez enlever le point rouge, Om Safia peut proposer sa question. D'abord, où est Om Safia? Je suis en train de la chercher. Où est Om Safia? Je répondais que pour la sœur, la première sœur. Avant de répondre à Oum Safiya, je disais, aucune femme n'a le droit de rester tout le mois sans faire la prière. Aucune femme n'a le droit de rester tout le mois sans faire la prière. Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant le mois, si tout le mois, elle a du sang ou là, elle choisit, 5 ou 6 ou 7 jours d'après les règles, combien qu'elle avait, ça diffère d'une femme à une autre, et elle ne fait pas la prière pendant 5, 6 ou 7 jours. Voilà. C'est comme ça, la règle en général. Ensuite, doit-on rattraper les prières qu'on n'a pas accomplies pendant l'adolescence? Doit-elle rattraper? On n'est pas obligé de rattraper les prières qu'on n'a pas faites autrefois quand on était adolescent. Mais on fait beaucoup de nafila. On fait beaucoup de nafila car il est dit dans le hadith sahih que la première des choses que Allah Azzawajal, sur laquelle Allah Azzawajal interrogera les gens, c'est la salat. Si il trouve qu'elle est manquante, yani il manque quelque chose dans la salat, il dit "Unzuruha li 'abdi min nafila." Regardez mon serviteur, est-ce qu'il faisait des prières surérogatoires, nawafil. S'il trouve les nawafil, alhamdoulillah, il va, yani, les nawafil vont compenser les salats, yani, qui nous manquaient. Et c'est pas la peine d'aller faire la salat qu'on a passée autrefois. Il y a bien sûr beaucoup d'adillah dans cela, mais c'est pas le moment de donner les délais. Si vous les voulez, je les donnerai, inshallah ta'ala. Ensuite, certains sœurs vous demandent de rappeler la façon de faire le rousse après le lochi, car il y a confusion. Naam. Le rousse après les lochis, c'est comme le rousse de la janaba et c'est comme le rousse des monstrueux. Il n'y a aucune différence. C'est comme le rousse de la janaba et c'est comme le rousse des monstrueux. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que pendant les lochis et pendant les monstrueux, pendant les lochis et pendant les monstrueux, elle est obligée de dénouer ses tresses. Elle est obligée d'enlever ses tresses et de les dénouer. Mais pendant la janaba, elle peut ne pas dénouer ses tresses. Elle peut se laver juste en yani, la douche, yani, qui est l'eau qui tombe sur sa tête et elle ne dénoue pas ses tresses. L'essentiel, c'est que l'eau touche yani, ce qui est apparent des cheveux. C'est pas la fin qu'il rentre à l'intérieur des tresses dans la janaba. Yani, elle dit rahma min Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle commence par laver ses parties intimes. Elle commence par laver ses parties intimes. Ensuite, elle lave ses mains. Ensuite, elle commence le wudu normal, le petit wudu, les petites ablutions. Ensuite, quand elle fait ses cheveux, ses oreilles, elle lève ses pieds. Elle les a pas encore fait. Ensuite, elle commence le grand lavage d'en haut, par les cheveux, et elle descend. En choisissant de faire par exemple le côté droit auparavant, ensuite le côté gauche si elle veut, n'est pas obligée. Ensuite, elle termine avec ses pieds. Elle se met un peu, elle s'éloigne un peu, et elle termine ses pieds. Ensuite, elle prend un coton, elle met par exemple du déodorant, quelque chose elle, qui a une bonne odeur, elle met à l'intérieur. C'est comme ça, elle, la façon dont le prophète Islam nous a montré comment qu'elle doit faire. Et comme j'ai dit, bien sûr, parce que j'ai parlé des pieds, elle termine ses pieds et ensuite elle met le coton. Ensuite, elle a terminé bi'idna azzawajal le rousse. Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour faire le rousse après la fin des menstrues, doit-on séparer les cheveux en deux, c'est-à-dire faire une raie au milieu et laver trois fois le côté droit et trois fois le côté gauche? Quand on fait le rousse après la fin des menstrues, il n'y a pas ce qu'on appelle yani, faire une raie comme ça au milieu, etc. Il n'y a pas ça. Quand on commence à se laver, de préférence, si on peut, yani, ce n'est pas obligé. Pour celle qui veut ou celui qui veut, il commence par le côté droit, sans mettre une raie ni rien. Il commence par le côté droit, ensuite il revient au côté gauche. C'est à peu près comme ça. Yani, il n'y a pas, il va dire, voilà, je vais mettre une raie. Sans raie. Yani, il se lave comme ça, il touche seulement du côté droit, ensuite il touche du côté gauche. Mais ce n'est pas obligé. Quelqu'un qui veut se laver directement, surtout que maintenant, yani, y a Hadik qui est sur notre tête. Toujours, j'oublie comment qu'elle s'appelle. Hadik, où il y a l'eau qui sort. Hadik, quand on met notre tête au-dessus de la horte, au-dessus d'elle, yani, c'est un peu difficile pour que ça ne tombe qu'à droite ou que ça ne tombe qu'à gauche. Ça, c'est pour ça qu'on fait à peu près. On fait à peu près. Naam. Autre question, inshallah ta'ala. Qasi salaf, tfaddal. J'oublierai pas de dire que quand une femme fait le wudu, elle a des cheveux longs, quand elle arrive à ses cheveux, elle doit faire sa tête, c'est pas la peine de descendre avec ses mains jusqu'où descendent ses cheveux. Par exemple, si elle a des cheveux jusqu'au dos, elle ne doit pas descendre avec ses mains jusqu'au dos, mais elle s'arrête juste là, devant la nuque, là, où commence le cou, là elle s'arrête, c'est tout, naam. Salam alaikum. Dans son livre, Sharh al-Sunnah d'Ibn Barbahari, il dit, le khalifa, maintenant, inshallah ta'ala, les questions hors sujet. Le khalifa restera parmi les Quraysh jusqu'à ce que Isa ibn Maryam, alayhi salam, descende. Il y a plusieurs avis, si oui, quels sont-ils, barakallahu fikum. Dans son livre, Sharh al-Sunnah d'Ibn Barbahari, le khalifa restera parmi les Quraysh jusqu'à ce que l'imam, alayhi salam, descende. Il y a plusieurs avis, si oui, barakallahu fikum. Non, en fait, c'est pas exactement comme ça qu'a dit Wasmuhada, qu'a dit le Barbahari. Par ce livre de l'imam Barbahari, moi je l'explique ici dans la mosquée où je suis, chaque mardi. Si tu veux Qasi Salaf, tu viens assister avec nous chaque mardi ici. Je disais, l'a'imma, le khalifa, doit être de Quraysh. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'a'immatu min Quraysh. L'a'immatu min Quraysh. Naam. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'a'imma min Quraysh? Naam. L'a'imma min Quraysh, ça veut dire que tant qu'il y a quelqu'un qui est de Quraysh et il remplit les conditions, on doit le faire avancer par rapport aux autres. Il y a quelqu'un de Quraysh, quelqu'un qui n'est pas trop riche, celui de Quraysh remplit les conditions, on commence par lui. Ils doivent être de Quraysh quand on en trouve et quand ils remplissent les conditions. La preuve qu'on peut mettre quelqu'un qui n'est pas trop riche, c'est quoi la preuve? Par exemple, maintenant, où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un de Quraysh qui peut nous dire que moi, vraiment, je suis de la descendance de Quraysh? Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasma wa tuti'a wa in kana. Dans le sens, il a dit وَإِنْكَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَإِنْكَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا qui l'a dit شَعْرُهُ كَزَّبِيبَ etc. Il a dit tu dois écouter et obéir, il a dit, même si c'est quelqu'un, yani le khalifa, même si c'est quelqu'un de l'Éthiopie, un Éthiopien, un Habashi. Et l'Éthiopien, c'est sûr que ce n'est pas un Quraishi, hein? C'est sûr, celui qui vient d'Éthiopie, c'est pas quelqu'un qui est de Quraish. Et ici le prophète a dit tu dois lui obéir et tu dois de suivre, même s'il est quelqu'un de l'Éthiopie. Donc voilà un autre hadith qui nous montre d'une façon sûre que quand le prophète a dit l'a'imma min Quraysh, ça veut dire tant qu'ils existent et tant qu'ils remplissent les conditions. Wallahu subhanahu azza wa jal. Il y a une sœur qui pose cette question par rapport aux pertes blanches lorsqu'elles surviennent pendant la prière. Que doit-on faire, s'il vous plaît? Par rapport aux pertes blanches, quand elles surviennent pendant la prière, que doit-on faire, s'il vous plaît? Réponse, inshallah ta'ala, les pertes blanches, quand elles sortent, elles annulent le wudu. Dès qu'elles sortent pendant la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va refaire les ablutions. Je répète, les pertes blanches ne sont pas souillées. Ça veut dire qu'une femme, quand elle a les pertes blanches qui sortent, elle n'est pas obligée d'aller laver l'endroit, ni de laver les vêtements, parce que c'est pas de la souillure, parce que ça sort de l'utérus. Mais à condition de quoi? À condition de refaire les ablutions, parce que les pertes blanches n'étant pas souillées, en même temps elles annulent les ablutions. Non, elles sont pas souillées, je dis bien, mais elles annulent les ablutions. Pourquoi? Parce qu'elles sont sorties de cet endroit. Mais c'est pour ça que quand elle est dans la salade, ça veut dire si elles sortent, elles ont annulé ces ablutions et par conséquent elles ont annulé sa salade. Sauf, je dis bien sauf, pour une femme qui a les pertes qui n'arrêtent pas. Sauf pour une femme qui a les pertes qui n'arrêtent pas. Non, une femme qui a les pertes tout le temps, qui n'arrête pas, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend juste le dernier moment, elle va faire des wudu, les ablutions, elle rentre dans la salate. Si ça sort et ça coule dans la salate, pour cette femme, seulement pour cette femme qui est malade, elle peut continuer sa salate. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'arrêter pour attendre que ça se coupe, elle est malade. Les pertes ne s'arrêtent pas de couler. Donc seulement pour cette femme, elle peut continuer la prière à condition d'avoir fait les ablutions à la dernière minute, juste avant de rentrer dans la prière. À part celle-là, toute autre femme qui a les pertes normales, toute autre femme, quand elle est dans la prière et elle sent que les pertes sont descendues, elle sort de la salle, sa prière a été annulée. Elle n'est même pas obligée de dire salam alaykoum. Pourquoi? Parce que sa salat est déjà annulée. Et elle va refaire les ablutions et refaire la salat, inshallah ta'ala. Bilal Salafi, tafadhal. Bilal Salafi, où étais-tu? Et pourquoi tu m'as pas répondu quand je t'ai écrit? Je t'ai écrit pour te demander, ta femme, est-ce que ça s'est bien passé? Et est-ce qu'elle a bien accouché? Qu'est-ce qu'elle a eu? Masha'Allah, tu n'as pas voulu me répondre. Donc, j'ai un point contre toi. Tafadhal, Bilal. Salam alaikum. Min fadlikoum, pour une femme qui accouche. Il faut dire min fadlikoum pour ma femme qui accouche. Pour ma femme qui accouche, qu'on peut-elle reprendre la prière? Jazakallahu. Tu n'as pas vu les messages, hein? Malish. Tu n'as pas vu. Donc, rappelle-nous, Bilal, tu as un garçon ou une fille? Rappelle-nous. Un garçon ou une fille? Moi, tu me l'as dit, mais j'ai oublié, ça fait très longtemps. Un garçon. Allah yubarik ala kafir. ونرزقك شكر الواهب وحسن الموهوب ونجعله مباركا لهذه الأمة صحيح حديث صحيح مي حديث مقطوع صدر كي ايتي دي par un tabi'i le fils de un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oublie pas que pour le garçon tu dois Inch'Allah, si tu dois, si tu peux, tu dois égorger deux moutons. Et si tu égorges deux moutons, n'oublie pas de me cacher. C'est pas la peine que je te dise quoi, tu sais ce que c'est, hein. Tu me caches, il y a une partie du mouton, tu me la caches. Je reviens, je veux dire, une femme qui accouche, elle peut reprendre la salat après 40 jours. D'après le hadith des femmes des prophètes, elle restait 40 jours sans faire la salat. 40 jours. Sauf dans un cas, sauf si après le 40e jour, elle commence les règles. Si les règles commencent à la fin des 40e jours, elle se colle avec les logis, bien sûr, elle attend qu'elle termine quoi? Qu'elle termine l'akhar, qu'elle termine ses règles. Maintenant, quand je dis 40 jours, je parle du maximum. Mais si jamais une femme, le 20e jour, ou là, le 10e, ou là, le 4e, ou là, le 15e, elle se trouve pure, celle-là, elle se lave et elle commence à faire, Inch'Allah ta'ala, la prière. Wa sallamni bzaf ala Zayd Abdurrahman. Sallamna kathir ala Zayd Abdurrahman. Hassan Abou Lias, tfadl. La question est revenue du frère qui dit, est-ce que le fait d'être revenu au deuxième lavage de mon bras gauche pour compléter ce que j'ai cru avoir manqué? Puis je suis allé ensuite faire mon troisième lavage, c'est-à-dire à l'autre bras. Puis d'avoir fait ensuite mon troisième lavage, a-t-il invalidé ma purification? Il l'a pas invalidé. Je répète et je dis, il ne l'a pas invalidé bi-idhnillah azzawajal. Il ne l'a pas invalidé. Car, pourquoi dans la sunna, tu n'es pas obligé de faire trois fois à chaque membre. Tu peux faire le visage deux fois, les pieds trois fois, les mains une fois, les cheveux, la tête trois fois, les pieds une fois. Comme tu es libre, tout cela est permis. Tout cela est de la sunna. Donc toi, tu reviens, tu as fait deux fois les bras. Tu reviens pour faire la troisième fois les bras. Reviens, ce n'est pas interdit. Ensuite, tu reviens où tu étais. Inch'Allah ta'ala, ça n'a pas invalidé. Non, Hassan Aboudir, j'attends ta question, Inch'Allah. Si tu n'es pas là, on va sauter à Soumoussou. Walaykoum salam, Inch'Allah. Certains jeunes disent que dans la Qasida al-Burda de Mohamed Boussaïri, il y a du chef. Je voudrais savoir s'ils ont raison, quels sont les arguments, quels sont les savants anciens contemporains qui ont interdit la lecture de cette poésie. Naam, les savants contemporains, c'est entre autres Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Naam. Et il y en a beaucoup d'autres, c'est sûr. Pourquoi? Parce que même toi Hassan, Akhi Hassan, je te connais pas, mais Inch'Allah ta'ala, je suis sûr que toi, si tu lis bien ce qu'il y a dans la Bourda, tu vas dire, j'accepte pas ce qu'il a dit. Non. Pourquoi? Parce qu'il a dit des choses qui sont du shirk. Il a dit des choses qui sont du shirk. Il a dit que, yani, on pouvait savoir, ou là, il y a certains gens, etc., qui savent ce qu'il y a dans le tableau préservé, etc. Et toi, tu sais que le prophète, alayhi a dit, c'est-à-dire, Allah a dit dans le Coran, ala lisan nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ul la aqul lakum, indi khazainu Allahi, wa la a'lamu al-ghayb. Wa la a'lamu al-ghayb. Je connais pas l'invisible, je connais pas le ghayb. Qu'ul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah. La personne qui connaît le ghayb. Dans cette qasida, il est dit que, on connaît le ghayb, et il dit beaucoup de choses de shirk, que je me rappelle pas maintenant. Nous, c'est pas qu'on est contre les gens, là, on les déteste ou là. Toute personne qui se trompe, on ne prend pas de la chose où elle s'est trompée. On dit cette chose ici, dans cette phrase, elle s'est trompée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est rentré dans un mariage, il y avait un mariage, il y avait des jeunes filles qui faisaient comme ça des qu'on appelle des anachites. Et lorsqu'elles ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles voulaient yani, le flatter et vanter ses mérites. Elles ont dit, en ce sens, elles ont dit, Nabiullah, yani, ya'lam ma fil ghadi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait ce qu'il y a demain. Il leur a dit non, ne dites pas cela. Je ne sais pas ce qu'il y a demain. Il leur a corrigé. Une faute, on la corrige, c'est tout. Le qasida a dit, elle contient beaucoup de fautes. Elle contient beaucoup de fautes dans la aqidah. C'est pour ça que il faut non seulement ne pas la lire, mais au contraire, montrer aux gens et dire qu'il faut éviter cette qasida, inshallah ta'ala. Naam. Soumoussou, tfadal. C'est ce que je doute, inshallah ta'ala, de toi. Je sais que quiconque aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les fait devancer sur toutes les créatures. N'importe qui se trompe, je lui dis pardon, et si tu t'es trompé, alors je dis pas du mal de toi. Là, je dis ici, ce que tu as dit, c'est faux, c'est tout. Ce que tu as dit, c'est faux. Adam Makan. Fadlan, inshallah, soumous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'on a le droit d'appeler un garçon Yassine? Barakallahu fik, on m'a posé cette question une fois, ou avec un nom, Din, comme Nourdin, Nasruddin, etc. et Kamila pour une fille, barakallahu fik, cheikh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم en ce qui concerne Yassine j'avais promis de chercher je n'ai pas trouvé. D'abord je voudrais dire que Yassine dans le Coran, quand c'est écrit Yassine pour le Coran al-Hakim, beaucoup de gens croient que Yassine c'est le nom ou c'est le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est pas vrai. C'est pour ça que certains disent Yassine Taha, ils disent c'est le prophète, c'est le nom, c'est le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que beaucoup d'égyptiens appellent leurs enfants Taha, comme le grand alim là, Taha Hussein, etc. Enfin grand alim, mais il était dans l'erreur, il s'appelait Taha. Beaucoup d'égyptiens appellent leur enfant Taha en ce sens qu'ils disent que Anil Baraka, comme s'appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi je dis que Yassin et Taha, ce ne sont pas des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens, je crois qu'il n'est pas interdit d'appeler quelqu'un Yassine si on ne veut pas le Coran. C'est-à-dire, je ne l'ai pas appelé parce que Yassine, ça se trouve dans le Coran. J'ai appelé Yassine comme ça, par habitude, ou là. Yani, je ne fais pas, comment dirais-je, je fais pas allusion au Coran. Non, je ne connais pas quelqu'un qui a dit que appeler quelqu'un Yassine, c'est haram. Quant au prénom qui contient le mot din, Nasruddin, Shamsuddin, Taqiyuddin, tout cela, Cheikh Al-Albani a dit, de préférence, on n'appelle pas quelqu'un avec ces prénoms. Il a dit, ça comporte une tazkiya. Nourdin, c'est le nour, c'est la lumière du din. Nasruddin, c'est quelqu'un qui va faire le nasr au din. Nasr du din. Yani, masha'Allah, il rahyunsur din. Alors que peut-être il va passer toute sa vie dans un cabaret. Celui-là, il s'appelle Nasruddin. Et comme ça, Cheikh Al-Albani a dit, de préférence, on n'appelle pas quelqu'un comme ça. Ensuite, moi, je me suis dit, Cheikh Al-Albani a dit cela. Et pourtant, lui-même, il s'appelle Nasruddin. Il s'appelle Nasruddin Albani. Je me suis dit, oh là, c'est un peu drôle. Pourtant, lui, il dit dans Silsila Sahiha, il dit, on ne doit pas appeler des gens comme ça. Donc, comment dire, je dirais que, puisque c'est pas en qui l'ont appelé, maintenant c'est trop tard, il est connu comme ça. Je veux dire que lui-même, je suis sûr qu'il ne va pas appeler son fils, par exemple, Nasruddin ou là. Si l'homme et la femme sont en désaccord sur le prénom, comment doit-on faire? S'ils sont en désaccord, qu'ils se mettent d'accord sur un prénom qui peut les joindre les deux, qui peut faire le raccord aux deux. Non, s'ils sont en désaccord. Qui choisissent un prénom qui fait plaisir à l'homme et à la fille, qu'ils pensent au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dit Hab Abdullah ou Abdurrahman. Si c'est un garçon, on l'appelle Abdullah, on l'appelle Abdurrahman. Ça, ce sont les deux noms ou le prénom les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, le hadith qui dit Khairul Asma ma ubbida wa humida, c'est un hadith faible. Un hadith faible, le hadith qui dit Khair al-asma ma ubida ou ma humida. Donc toi, si vraiment yani, tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux faire quelque chose ou l'appeler quelqu'un par un prénom que Allah aime, appelle-le Abdullah ou Abdurrahman. Si c'est une femme, appelle-la comme appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ses femmes. Appelle-la Hafsa, appelle-la Safiya, appelle-la Khadija, appelle-la Ruqiya, appelle-la Kultum, appelle yani Aisha. Je vois pas pourquoi je laisse ces prénoms, appelle-la Khadija. Je vois pas pourquoi je laisse ces prénoms et je vais à Kamila et Sarah et je ne sais pas les prénoms de ta yani la Chichi, qu'on appelle la Chichi. Al-Mouhem, prochain sou'a Inch'Allah. Abou Moussa ta. On a, Inch'Allah, il reste un quart d'heure et on arrête. Salam alaikum. Quand est-ce qu'une femme doit se purifier après les règles? Tout de suite après avoir vu la disparition des règles et faire sa salat, doit-on être sûr? Car généralement, les règles reprennent un ou deux jours après avoir disparu. Non, j'ai dit pour la femme qui a les pertes blanches, même si elle voit qu'il n'y a plus de sang, elle ne fait pas la prière. Une femme qui a les pertes blanches, si elle voit qu'il n'y a plus de sang, elle n'a pas le droit de faire la prière jusqu'à ce qu'elle voit les pertes blanches. C'est très très important. Ça ne suffit pas le fait que le sang ne coule plus. Le sang ne coule plus, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je vois les pertes blanches. Tant qu'il n'y a pas de pertes blanches, je ne fais pas la prière. Pour une femme qui a l'habitude d'avoir des pertes blanches, celle qui n'en a pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend qu'il y ait, yani, que ça soit sec, que ça soit vraiment sec. Quand elle est maintenant sûre, elle attend un peu, une heure, deux heures, trois heures, elle est sûre qu'il n'y a rien qui a coulé, elle commence, Allah Ta'ala, à faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Zawjatu Abu Zainab. Umu Zainab, donc. Zawjatu Abu Zainab, c'est Umu Zainab. Tafadhali. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On m'a dit que Om Ishaq est bloqué. Je la cherche, je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas où est-ce qu'elle doit être. Si quelqu'un voit où est Om Ishaq, il me dit, je ne l'ai pas trouvée. Inch'Allah, Cheikh, le frère Abou Mouliam 26, c'est à lui, car il a blogué depuis avant, il était blanc. Ma'alesh, on donne, Inch'Allah, après Zoujet ou Abou Zainab, on donne à qui? Abou Mouliam 26. Naam. Naam. Où est la question, Inch'Allah? Oumou Zainab, où est la question? Où est Abou Mariam 26? Je ne vois pas ici Abou Mariam 26. Avec Allah, Allah yahyik, je voulais savoir qu'en est-il de la coloration des sourcils de la femme en une couleur ressemblant à sa peau. Pouvez-vous me réciter le délit sur l'interdiction de réciter le Coran en état de moisson? Qu'en est-il de la coloration des sourcils de la femme en une couleur ressemblant à sa peau? Non. J'ai lu que si la femme faisait cela, la coloration de ses sourcils ou de ses sourcils, si elle faisait cela parce que pour plaire à son mari ou là, que ce n'était pas interdit, inshallah ta'ala, mais que c'était interdit si elle faisait cela pour suivre les kuffars. Naam, quand elle fait cela à cause des kuffars, c'est une mode chez les kuffars. Toutes les kafirettes font cela, moi je fais cela, yani pour suivre la mode. Ça devient dans le haram, khaliful yahoud ou nasara, khaliful mushrikoun, etc. Même tashabbah biqawm fa huwa minhum. Mais si elle le fait juste pour son mari ou là son mari aime cela, j'ai lu inshallah ta'ala que ce n'était pas interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, pouvez-vous me réciter le délit sur l'interdiction de réciter le Coran en état de moisson? Réciter seulement, ou bien tu parles de toucher le Coran, il y a le hadith la yamussuhu illa tahir, hadith connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un livre très connu, le hadith. Maintenant en état de yani seulement réciter, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui disait salam alaykoum, seulement pour dire wa alaykoum salam wa rahmatullah, il voulait pas le faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le tayammum et il répondait, il disait wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Imagine donc si pour seulement dire wa alaykoum salam, il veut pas le dire jusqu'à ce qu'il fasse yani le tayammum ou bien les ablutions. Alors qu'en est-il pour réciter le Coran pour une femme qui a des menstrues? C'est pour ça que la plupart des ulama lui interdisent de réciter le Coran, sauf si elle a peur de l'oublier, ou si c'est une enseignante, ou si elle a besoin, yani si elle est dans le besoin de le réciter. Elle doit le réciter comme témoignage devant un juge, elle doit le réciter pour un kafir, pour lui dire ceci, cela. Sinon, yani elle ne récite pas bi'illah azza wa jalla. Et concernant le port des lentilles pour plaire à son mari, naam, pour la femme qui met les lentilles seulement pour plaire à son mari, c'est jaiz, c'est valable, inshallah ta'ala, c'est valable pour celle qui le fait seulement pour plaire à son mari. Mais c'est très très interdit et c'est haram pour celle qui le fait pour tromper les gens, surtout si elle le fait par exemple devant le prétendant qui va demander sa main. Elle lui fait croire qu'elle a les yeux bleus alors qu'elle a les yeux noirs, ou qu'elle a les yeux verts alors qu'elle a les yeux marrons. Ensuite, la nuit nuptiale, quand il rentre, il va trouver une autre femme avec les yeux noirs. C'est-à-dire, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ça, c'est une autre femme, c'est pas celle que j'ai vue. Et ça, yani, c'est très très haram. Naam, Abu Moussa, tafadhal. Naam, tafadhal, Abu Mariam, je te cherche, je t'ai pas trouvé, tafadhal, naam. تفضل بوست اكيد j'ai déjà posé ma question, بارك الله فيك ابو موسى. Alors où est ta question? Tu l'as déjà posé يعني tout à l'heure. Ou là, tu veux dire qu'elle est là, ta question, j'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écris-moi ce que tu veux dire. Abou Mariam a dit, salam alaykoum al-Khlashir, un frère qui a laissé pousser sa barbe a des problèmes avec sa mère. Sa mère est chrétienne, elle veut qu'il taille sa barbe. Sinon, elle veut plus le voir, il vous demande conseil. J'ai une autre question, beaucoup plus longue, urgente pour un frère, cher. Je voudrais qu'un administrateur vous dise ensuite. Vous la lisez ensuite si vous êtes d'accord, mais je ne voulais pas prendre de ton frère ou soeur. Non, si tu veux après, mais le mouchkila c'est qu'aujourd'hui, juste après le DAS, tu dois parler avec certains gens dans une salle privée. Hein? Si tu peux, ou là tu me l'envoies en email, ou là je ne sais pas comment compter. Non. Pour le frère qui a la barbe, son assistant veut qu'il s'aille s'abattre, sinon il ne peut plus voir, il nous demande conseil. D'accord, on voit là, inshallah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Il a dit, on ne doit pas, yani, obéir au créateur en faisant la désobéissance, on ne doit pas obéir à une créature. En faisant désobéissance au créateur. Mais, je dis, si par exemple il habite chez elle, et elle risque de le jeter dehors, ou bien yani, ça va lui poser beaucoup de problèmes, et peut-être il va errer dans les rues, il va passer la nuit dans les jardins ou sous le pont, et après bien sûr il va couler, celui-là, inshallah ta'ala, il peut tailler un peu, pas beaucoup, il taille un peu, juste de façon de lui dire, voilà, regarde, j'ai taillé, yani, il ne me fait pas de problème, voilà, j'ai taillé, mais juste un peu, c'est juste pour yani, éloigner les grands problèmes. Si vraiment il sait qu'il a de grands problèmes, il va être expulsé, etc. Sinon, il doit faire tête forte et tenir. Il doit dire, moi, yani, je fais ce qu'il y a dans ma religion. Chacun a sa religion. Moi, je fais, j'ai Allah subhanahu wa ta'ala que j'adore. Et yani, il essaie comment, inshallah ta'ala, même si elle n'est pas convaincue, il essaie de lui dire qu'il ne doit pas lui obéir. Mais en autre chose, il lui obéit. Il lui dit, ma mère, si tu veux maintenant, je vais te prendre sur mon dos et je vais yani, faire le tour de Paris et toi sur mon dos. Tu veux que je te lave tes pieds, tu veux que je t'achète tout ce que tu veux, mais seulement ne me pousse pas dans les choses yani, qui sont interdites dans ma religion. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Hamza, tafadhal. Hamza 406, tafadhal. وعليكم السلام ورحمة الله حمزة تفضل فيك بارك الله أبو مريم والله سبحانه وتعالى أعلم أبو مريم إن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسه ومن الشيطان أتكلمت على أخف ضررين ما فامي أركوشي بمتيت في ربي يحفظها آمين يا رب العالمين ربي يحفظها ويجعلها من تقيات فاوت الله يسلوشي pour la première fois pendant Ramadan. Quand le saignement s'est arrêté, elle a attendu deux jours avant de faire ses prières pour être sûre de la fin des logis. Pendant deux jours, elle a jeûné dans le doute. Doit-elle rattraper ses salats et son siyam? Comment se passe ce rattrapage vu que c'était il y a deux mois? Tu dois relire, Inch'Allah Ta'ala. C'est août, elle a eu ses logis pour la première fois pendant Ramadan. Quand le saignement s'est arrêté, elle a attendu deux jours avant de faire les prières pour être sûre de la fin des logis. Naam. En principe, Si elle avait atteint 40 jours, elle n'a pas le droit d'attendre deux autres jours. Une femme qui a atteint 40 jours, elle commence à faire la prière. Elle n'attend pas, quoi, yani pour être plus sûre. Mais maintenant, si c'est au milieu, par exemple le 20e jour, elle n'a plus eu de sang. Il a dit, elle a attendu encore deux jours pour être sûre. Non, quand elle attend, pour être sûre, elle doit rattraper ce qui s'est passé. La preuve, c'est que rien n'a coulé. La preuve, c'est que rien n'a coulé. Et pendant ces deux jours, elle a jeûné dans le doute. Est-ce qu'elle doit rattraper? Elle doit rattraper en ce qui concerne la salat. Les deux jours, elle n'a pas fait la salat, elle les fait. Mais puisqu'il a dit, elle a jeûné dans le doute, dans quel doute? Je dis bien, elle avait l'intention, elle s'est dit dans le cœur, je vais jeûner. Elle a fait l'intention. Dans le doute, est-ce que yani, ça va couler ou ça va pas couler. Ce doute n'altère rien. Ce doute laisse le siyam sahih. Pourquoi? Parce que elle avait des doutes. Est-ce que quelque chose allait sortir ou n'allait pas sortir? Et puis rien n'est sorti, alhamdoulilah. Donc, yani, son jeûne était juste. Son jeûne était valable. Pourquoi? Parce que les doutes c'était, est-ce que je peux continuer est-ce que ça va saigner? Et puisque ça a rien saigné. Donc, son siyam, inshallah ta'ala, est sahih. Pour la salat, Inch'Allah ta'ala, elle doit la refaire. Pourquoi? D'ailleurs, la preuve, pourquoi a-t-elle fait? A-t-elle fait le jeûne et elle n'a pas fait la salat? Pourquoi elle a fait le jeûne et elle n'a pas fait la salat? Comment qu'elle rattrape? Elle rattrape si elle peut, dès qu'elle a le temps, elle rattrape les deux jours à la fois. Si elle a le temps. Elle fait sobh, dhor, asr, maghrib, isha. Si elle peut, les deux jours à la fois. Si elle ne peut pas, par exemple, elle rattrape une journée le matin et une journée le soir, par exemple. Sinon, il y a une journée aujourd'hui, une journée demain, et comme ça. Je voulais annoncer la bonne nouvelle aux frères et aux sœurs que la grand-mère d'un frère est convertie aujourd'hui. Masha'Allah, la quwwat elle blesse, Allah n'y a d'yaha, on chalha sqraha d'il iman. On y usabita à l'islam. Ou an yuwfiqa lima fi khair ou l'akhira ou l'dunya. Naam. Il a dit. Hamza. Hamza, Sifa Hosseini, elle a arrêté son sixième. Sifa Hosseini, elle a arrêté son sixième. J'ai pas compris. Les pertes blanches ne sont pas une souillure pour une femme. Qu'en est-il du liquide prostatique pour les hommes? Non, les pertes blanches ne sont pas une souillure pour une femme. Qu'en est-il du liquide prostatique pour les hommes? Et chez les hommes malades, donc... Non, le liquide prostatique, Akhi Hamza, il faut d'abord qu'on sache ce que c'est. Ah, pour qu'on soit d'abord sûr, il y a des termes qu'on emploie. Parce que pour moi, peut-être ça veut dire une chose, chez l'autre, ça veut dire autre chose. On a le liquide séminal. Le liquide séminal qu'on appelle le sperme. Ada, il est très connu. Quand quelqu'un fait le rapport avec sa femme ou là, naam, il a le liquide séminal. Maintenant, il y a le liquide prostatique, il y a le liquide visqueux. Le liquide prostatique et le liquide visqueux. Attends, je vais voir une seconde dans le cahier ici, j'ai écrit une fois. Qu'est-ce que ça veut dire prostatique, qu'est-ce que ça veut dire visqueux? Car si s'il y a khalq, après khalq, j'espère seulement trouver où j'ai écrit, il y a bien le mouchkil. Bon, maintenant j'ai pas trouvé, je sais pas où je l'ai écrit, mais je vais te dire ce que je sais moi, et si c'est vrai, si c'est faux, tu me corriges, si c'est faux, tu me corriges. Le liquide prostatique, c'est le liquide qui sort quand on joue par exemple avec sa femme, ou là on pense à sa femme, ou là on enlace sa femme, il y a quelque chose qui sort. Ça s'appelle le liquide prostatique. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit, Wasbak? Mani, sperme. Naam, wadi, liquide prostatique, visqueux. Mani, liquide prostatique, fin. Comment tu as écrit la même chose? Tu as écrit, mani, c'est le sperme. Wadi, c'est liquide prostatique, visqueux. Et mani, liquide prostatique, fin. Yani, les deux s'appellent prostatique. Donc, si je comprends, le wadi et le mani, s'appelle liquide prostatique, les deux. L'un il s'appelle visqueux, l'autre il s'appelle fin. Naam. Alors Hamza, toi tu parles du mazi, il s'appelle aussi mazi. Tu parles du troisième, c'est-à-dire liquide prostatique fin. Et pour être plus sûr, c'est le liquide qui sort lorsqu'on joue avec sa femme ou là on l'enlace ou là. C'est celui-là qui sort. Celui-là, quand quelqu'un est malade ou là, il sort beaucoup chez un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les ablutions avant la prière, juste avant la prière. Il fait les ablutions et il rentre dans la salat. Si celui qui sort après la shahwa, après la shahwa, c'est le mani qui sort. Et l'ouadi sort après l'urine. Sah. L'ouadi sort après l'urine. Naam. Et le mani sort après la shahwa. Ça dépend ce que tu veux dire après la shahwa. Après la shahwa, c'est le sperme qui sort. Mais après avoir joué avec sa femme ou là, c'est le mazi qui sort. C'est pour ça que des fois, on sent même pas qu'il est sorti. Le mazi, on sent même pas qu'il est sorti. Donc, Akhi Hamza, toi tu parles du mazi. Ça s'appelle aussi le mazi. Avec soukoun et le mazi avec kasr. Celui-là, quand on joue avec sa femme ou là, il sort. Celui-là, on doit laver ses habits. Naam, on doit laver ses habits. Naam, pourquoi? C'est une najasa, c'est une souillure, et on doit laver son sexe pour l'homme. Il doit laver son sexe et en même temps, il doit laver les testicules. Il doit laver aussi les testicules. Pour le wadi, non. Pour le wadi, il sera pris l'urine. Celui-là, yani, on se lave comme on se purifie, comme on se purifie de l'urine, la même chose. Mais pour l'autre qui sort, yani, quand on pense à sa femme ou là, on l'enlace, celui-là, non, on ne fait pas le rosl. On fait seulement les ablutions. On ne fait pas le rosl, on fait seulement les ablutions. Et pour le liquide prostatique Hadak, on doit, yani celui qui sort après avoir enlacé sa femme, on doit se lever les parties, laver les parties intimes pour l'homme et aussi les testicules. Et chez les hommes malades, dont ce liquide coule toujours. Je t'ai répondu, Hamza. Chez les hommes malades, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelque chose dans ses vêtements. Il met une couche ou là il met une serviette ou là il met papier hygiénique. Avant de rentrer dans la prière et avant de faire les ablutions, il commence par se nettoyer les parties intimes. Ensuite, il met quelque chose, comme la femme qui a les menstrues, il met quelque chose lui aussi. Après s'être lavé les parties intimes et les testicules, il met quelque chose, il fait les petites ablutions et il fait la prière. Maintenant, même si dans la prière, la chose coule, il continue sa prière parce qu'il est malade. C'est comme la femme qui a les pertes. La femme qui est malade, qui a les pertes, elle continue sa prière. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa prière. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Abu Khalid, tfadhal. Les 10 dernières minutes, inshallah. Abu Khalid, tfadhal, les 10 dernières minutes, inshallah ta'ala. Wa alaykoum salam, tfadhal. Une personne qui a beaucoup de ouswas sur le fait de faire ses ablutions par les gaz. Comment doit-elle faire pour combattre ce ouswas? Elle a tout essayé pour se débarrasser de ça, mais rien n'a fait. Elle ressent comme des gaz, et pour la personne qui a réellement beaucoup de gaz, comment doit-elle faire? J'ai bon ces 77 momos parce qu'il était bloqué. Non, c'est bien de dire cela pour ne pas croire qu'il a fait quelque chose ou là. El-Mohim. Pour quelqu'un qui a beaucoup de gaz, je voudrais d'abord dire une chose ici très importante. Les gaz qui annulent les wudous, ce n'est pas les gaz qu'on ressent à l'intérieur du ventre. À l'intérieur du ventre, tu vois, on entend des choses, hein, des choses qui font kor, 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 kor. Ça n'annule pas le wudu. Pour annuler le wudu, il faut que les gaz sortent. C'est pas les gaz qui font du bruit à l'intérieur du ventre. Hein, ça n'annule pas le wudu. Certains gens, le côlon, etc., ils n'arrêtent pas du matin au soir de ressentir des coups à l'intérieur et des sons à l'intérieur. Ça n'annule pas le wudu. Maintenant, quand quelqu'un il a beaucoup de gaz qui sortent, c'est comme une femme qui a les pertes. Et comme un homme qui a le liquide prostatique qui sort beaucoup. Ça veut dire quoi? Cette personne qui a beaucoup de gaz qui sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse les ablutions à la dernière minute. Ensuite, quand elle rentre dans la prière et les gaz commencent à sortir, elle termine sa prière. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est malade. Donc la maladie peut être des pertes blanches qui coulent beaucoup, peut-être le liquide prostatique qui n'arrête jamais, et peut-être les gaz qui n'arrêtent jamais de faire la prière. Moi, ça fait seulement 2 jours, ou bien 3 jours. Quelqu'un a fait la prière devant moi, je l'ai vu devant la mosquée. Depuis qu'il a commencé, et les gaz sortaient de lui. Les gaz, yani, pas à l'intérieur, qui sortaient, et yani, ça faisait un son. Yani, celui-là, on a fait la prière avec la musique. Il n'a pas arrêté, mais il était malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il a continué la prière. Normalement, c'est comme si ce n'était même pas lui, de lui qui sortait des gaz. Là, je me suis étonné, je me suis dit, celui-là, Allah, yani, il a vraiment une personnalité. Yani, alors, tout le monde entendait, mais là, il ne peut rien faire, c'est une maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas la prière, à moins qu'il la fasse à la maison. Donc celui-là, il est excusé, à condition de faire la prière et les ablutions à la dernière minute. Et ensuite, tu rentres dans la salade. Qui se passe n'importe quoi, yani Allah ghalib, c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a donné la maladie. Mais pour le ouswas, c'est dangereux. Pour quelqu'un qui se dit, peut-être j'ai plus le wudu, peut-être j'ai le wudu, je sais pas ce que j'ai sorti, c'est pas sorti. Peut-être même qu'il demande aux gens, est-ce que vous sentez quelque chose, est-ce que vous avez entendu quelque chose. Tout ça, c'est le ouswas. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est un hadith sahih, il est même dans le Bukhari, il a dit, quand tu dis Allahu Akbar, tu commences la prière, personne n'a le droit de sortir sa prière à cause de, il a des doutes. Peut-être quelque chose est sorti, peut-être quelque chose n'est pas sorti. Tu ne sors pas de la prière, tant que le prophète a dit, tant que tu n'entends pas un son, n'entends pas quelque chose ou que tu ne sens pas une odeur. Dans ce cas, il reste toujours dans la prière, inshallah ta'ala. Mais l'homme qui promise, doit-il attendre l'entrée de l'heure également, car il risque de rater la prière, elle vient là-bas. L'homme qui prie dans la mosquée, inshallah ta'ala, il va à la mosquée et c'est dans la mosquée qu'il fait les ablutions. Il part à la mosquée et quand il sait que l'Iqama va commencer, il va faire les ablutions. Ou bien, il part à la dernière minute à la mosquée. Il part et il essaie de chercher c'est quand ici on fait la Iqama. Par exemple, 10 minutes, il part à peu près un peu avant. Maintenant, s'il arrive à la mosquée, la prière a été ratée, Allah lui donne, Inch'Allah ta'ala, il lui donne, comme dans le hadith sahih, il lui donne toute la salat. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention, et deuxièmement, il est malade. Et pour l'urine, il y a des personnes qui sortent vite des toilettes. Non, pour l'urine, la même chose. Les hommes et les femmes qui sont malades de l'urine qui ne s'arrête pas. L'urine qui ne s'arrête pas de couler, des gouttes. À chaque fois, des gouttes. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il ne doit pas aller aux toilettes avant la prière. S'il veut aller aux toilettes, il va une heure avant ou une demi-heure avant. Ensuite, il attend 5 minutes, 10 minutes, il a mis quelque chose, un vêtement ou là dans ses parties intimes, il attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le temps que coule l'urine qui doit couler. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est l'heure de la prière, il entend le adhan, si la mosquée est prête, il se lave et il fait vite les ablutions, il va à la mosquée. Maintenant, quand il dit Allahu Akbar, si lorsqu'il s'incline, il sent quelque chose est sorti, il termine la prière. Pourquoi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sinon, on rentre dans quelque chose de grave, on rentre dans le wusu, etc. Ensuite, on ne peut plus faire ni cette salat, ni aucune salat. Ça devient très grave ensuite. Naam. Prochain, inshallah, su'al, il reste deux ou trois su'al, inshallah. J'aime l'islam. Tfadal. J'aime l'islam, pose ta question. Je répète encore une fois à mes frères et à mes sœurs que le programme est redevenu samedi, lundi, mercredi. Samedi, lundi, mercredi. Et que c'est très difficile pour moi, yani, de choisir les horaires parce qu'il y a 2 heures de décalage, c'est beaucoup entre vous et moi. 2 heures de décalage, c'est beaucoup entre vous et moi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé même avec le frère de les repères de la Sunna, que je serais obligé de faire en même temps que lui. C'est-à-dire, je commence seulement une demi-heure après lui. Et que vous, yani, vous êtes libre. Ou bien vous venez chez moi, ou bien vous allez au repère de la sunna, c'est la même chose, c'est le même manhaj, et c'est le même ilm, inshallah ta'ala. Vous pouvez être un jour ici, un jour là-bas, un peu ici, un peu là-bas, le début ici, la fin là-bas. Vous êtes libre, inshallah ta'ala. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? La question au-dessus. Je ne vois pas la question, elle a dit elle est au-dessus. Est-ce que quelqu'un voit la question de j'aime l'islam? Je ne la vois pas. Peut-être qu'elle est au-dessus chez elle, pas chez nous. Non, elle est sortie peut-être chez elle, pas chez nous. Non. On profite, on donne à Abu Hassan le temps que j'aime l'islam écrit. Abu Hassan, tfadal. السلام ورحمة الله وبركاته. Ma mère veut me faire un grand mariage. Non, ce n'est pas interdit, inshallah. Ba'din. Et moi, je ne veux pas. Et après, Naam, je profite. Non, mais c'était la musique. Naam. Le temps que tu termines ta question, je profite de dire aux gens qui m'envoient leur PV à zawaj@gmail.com pour le mariage, etc. Je demande à mes frères et mes sœurs de ne pas poser des conditions qui sont un peu difficiles. Des conditions, laisser d'abord la muqabala, ensuite la azawajal, yani descend des choses dans les cœurs. Yani ne dites pas dès maintenant, je voudrais par exemple qu'il dépasse 1,78 m. Je voudrais pas qu'elle. On me l'a dit déjà, dit, deux ou trois fois, on me l'a dit. Laissez yani les choses normales, inshallah ta'ala. Ensuite, vous faites le choix, inshallah ta'ala. Naam. Est-ce que c'est terminé? J'aime l'islam. Écrit numéro 1 si tu as terminé. Parce que tu n'as pas posé de question en fait. Écrit numéro 1 si tu as terminé. D'accord, j'attends ta question, Chandra. Ma mère veut me faire un grand mariage et moi je ne veux pas avec la mixité, la musulmane. Dois-je lui refuser ou accepter? Tu dois refuser. Si jamais tu acceptes, tu es rentré dans le péché. Toi, tu dois faire le mariage que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Le mariage qui te fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, tu dois le faire en tant qu'adoration. C'est pas seulement un mariage, c'est une adoration. Car le prophète sallam nous a demandé de nous marier pour avoir des enfants, pour yani, agrandir le nombre des musulmans. Donc moi, quand je me marie, il faut que mon mariage soit une adoration. Maintenant, s'il y a la mixité, il y a la musique, etc., tu dois refuser. Non. Et c'est pour ça que je donne un conseil à mes frères et mes sœurs. Je donne un conseil à mes frères et mes sœurs, et je répète pour la troisième fois, je donne un conseil à mes frères et mes sœurs. Mais elles m'ont vu, lorsque je lui ai dit non, elle est prête à ne pas me marier si je refuse. Non, je donne un conseil à mes frères et mes sœurs, c'est quoi? Quand quelqu'un va se marier, il sait qu'il va se marier dans 1 an, ou là, dans 2 ans, ou là, je ne sais pas quand est-ce, dans 2 mois, il n'attend pas la dernière minute pour faire ses conditions. N'attend pas la dernière minute, grâce, le groupe qui va faire la musique, qui va chanter, ou le disque jockey, ou là, je ne sais pas quoi, il est déjà prêt, et toi, tu vas tout arrêter à la dernière minute. Non, tu dois arrêter, mais c'est difficile. Toi, tu commences à parler 1 an avant. 1 an avant, tu commences à dire à ta mère, moi, si vous croyez que vous allez me faire un mariage avec la danse et la mixité et la musique, c'est pas la peine. Dès maintenant, je vous dis que c'est pas la peine. C'est pas la peine, je vais pas me marier si vous allez me faire cela. 1 année en train de faire marcher des idées comme ça. La mère, elle est en train d'écouter, le père, la mère va lui dire, bien sûr, il va pas accepter, petit à petit, à chaque fois il écoute, il sait après que quoi, c'est une condition nécessaire. Tu laisses la dernière minute, ça va être très difficile. C'est pour ça que il faut dès maintenant faire marcher, yani, faire divulguer, propager, yani, faire la propagande pour yani, ton manhaj et yani, tes souhaits et tes vœux. Tu ne laisses pas la dernière minute, tu vas leur dire j'accepte pas ceci, j'accepte. Dès maintenant, tu dis, moi si la femme que ne me marie pas avec une femme qui a un djilbab, je ne vais pas me marier. Pour qu'il sache, c'est pas la peine qu'il te ramène ta cousine qui a la mini-jupe. Dès maintenant, tu enlèves l'idée de ta mère. Moi, si elle n'a pas de djilbab ou elle n'a pas ceci, cela, je ne me marie pas. Pour que vous sachiez dès maintenant. Naam. Ça, tu vas, inshallah ta'ala, réussir. Ils vont pas accepter au début, ensuite, ils vont, inshallah ta'ala, accepter. Bon. La soeur voulait pas nous priver, mais c'est normal, non, Inch'Allah Ta'ala, j'arrive, khlas. Dis-lui que j'arrive, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas terminé. Mais elle m'en veut lorsque je lui dis non, et elle est prête à ne pas me marier si je refuse. Non. Toi, tu essaies de faire le maximum pour ne pas faire cela. Tu dois faire le maximum pour ne pas faire cela. Si tu trouves maintenant que khlas, tu es dans l'obligation, yani, tu peux rien faire, sinon on va pas te marier, yani, tu te désengages devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te désengages devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis à ma mère, moi je n'aime pas cela, je suis contre, vous allez me faire quelque chose que moi j'aime pas, que Allah n'aime pas, etc. Je m'en désengage. C'est-à-dire, je vais me marier, je vais pas venir avec vous dans la salle ou n'importe quoi. faites ça tout seul. Je ne viens pas avec vous où il y a la mixité, etc. Et c'est moi ici, je vais me marier ici dans, chez moi, dans cet appartement. Je ne viens pas à la salle. Yani tu dois leur faire aussi des méchakil, toi aussi. Parce que c'est ton mariage. Tu dois yani, au maximum essayer d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ça devient plus fort que toi, alhamdoulilah, Allah azza wa jalla sait que tu as fait des efforts pour éviter, pour ne pas faire, mais pas au point de ne pas se marier, pas au point de ne pas se marier. Fais beaucoup de dua, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes. On est taqillah et ja'allahu makhrajin. Ou yarzuqhu min haythu la yahtasib. Il y a pas trop quand on fait ce genre, tu peux en faire. D'accord. De toute façon, moi j'ai terminé, Inch'Allah. Al-Kitab, c'est les chrétiens et juifs de notre époque ou c'est les gens qui ont suivi le prophète Moussa et Issa ou c'est les deux. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la photo chez Islam Timia? Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Fikoum barakallah. Cheikh Islam Taymiyyah dit, et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et ça c'est le plus juste, dit que Ahl al-Kitab, ce sont ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moussa et Issa, en son temps, ça s'appelle les musulmans. Ce sont des musulmans. Et Ahl al-Kitab, ce sont ceux qui ont falsifié le livre et qui vivent avec nous maintenant. Le chrétien que tu vois maintenant quand tu sors dans la rue, tu rencontres un chrétien, c'est celui-là Ahl al-Kitab. Et le juif qui est à Palestine, c'est un Ahl al-Kitab. Allah Azza wa Jalla les a appelés Ahl al-Kitab après la falsification. Qul ya Ahl al-Kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la na'buda illa Allah. Il les a appelés Ahl al-Kitab. Il a dit Qul ya Ahl al-Kitab. Et Ahl al-Kitab, Allah Azza wa Jalla a parlé d'eux au temps du prophète alayhi salam après la falsification de leur livre. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que je devais parler à des gens qui m'attendent dans une salle privée. Il est 1h du matin et 5 minutes. Je m'excuse si je dois m'arrêter. Il est tard. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Pour vos questions, vous les envoyez inshallah ta'ala à apprendre l'islam. Apprendre l'islam. Et je dois répondre à beaucoup de gens auxquels j'ai pas répondu. Apprendre l'islam. Gmail.com. Voilà, apprendre l'islam. Gmail. Naam. Jazakumullahu khairan. Il y a une sœur qui m'avait demandé, elle va avoir une muqabala samedi prochain, inshallah. Elle sait pas quoi faire, etc. Elle m'a demandé de lui écrire, de lui donner une nasiha, etc. Je voudrais dire à cette sœur, inshallah ta'ala, je t'ai écrit. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est pas arrivé, peut-être tu m'as pas bien vu. Je t'ai écrit assez longuement, je t'ai donné les nasihah. Je te parle à toi, dont tes enfants ont fait des rêves. Et tu m'as dit, est-ce que tu te souviens de moi? Je t'ai dit, naam, je me souviens de toi. Ce sont tes enfants qui ont fait les rêves. Inch'Allah ta'ala, je t'ai expliqué les rêves. Je me rappelle très bien de toi. Donc, je t'ai répondu assez longuement même. Je t'ai donné des nasa'ih, etc. Cherche bien, Inch'Allah ta'ala, si tu es sûr que ce n'est pas arrivé et que ça ne va pas arriver, écris-moi, Inch'Allah, demain ou là, je te rendrai la réponse. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Normalement, Inch'Allah, le rendez-vous, c'est samedi prochain. Mais c'est possible que jeudi ou vendredi, que je rentre, Inch'Allah, dans la salle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.